I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Le pire connard, bonjour le connard.
Est-ce que tu es fatigué, Cédric?
Salut les connards.
Je pense que Cédric a dormi 6 heures le mois dernier. Putain, il va tourner avec sa marionnette tout le long.
Bonjour.
Ça me saoule.
Des belles chaussettes.
Des belles chaussettes.
Plus récentes.
Ça fait déjà 2 minutes 10 qu'on tourne.
Ah bah
super.
Hey,
salut Internet. Ça va ou pas? L'histoire racontée
par les chaussettes.
C'est très marrant.
Ah merde.
Est-ce que t'as juste dit c'est marrant?
Bah attends, et ça va, il manquait juste 13. C'est pas comme s'il y avait 14 mots d'écart avec la vraie version, tu vois.
Non, mais c'est.
Okay, la meuf me shame comme si j'avais dit un truc complètement différent.
Mais non, je t'aime fort. Et j'aime ta volonté de t'intégrer.
C'est désopilant.
Merci.
C'est bien rigolo.
Yes, les patrouilles.
Ah merde,
désolé. Sachez que, à cause de l'État français et de son patriotisme fasciste, nous sommes obligés d'enregistrer dans une pièce sans aération, car si on ouvre la fenêtre, il y a les répétitions pour le défilé du 14 juillet qui font...
Oh, les avions.
Et tout le monde sent les bras de Cédric. Les tous bras de Cédric.
Tain, je trouvais ça drôle à dire, les tous bras de Cédric. J'aime bien parce qu'il a juste fait...
Pourquoi tu chantes?
Oh là 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 là, ça va être Cédric, je vais t'enlever cette marionnette, je te promets,
ça va être chiant.
Les gens ne savent pas que tu as une marionnette, donc si tu prends des voix bizarres, ils n'auront pas le.
Eh bien, sachez que s'il y a une voix bizarre, c'est la marionnette qui parle.
Comme ça, bonjour tout le monde, comment vous allez?
T'es la honte de ce podcast, Cédric.
Je vous déteste tous.
Bon, allez. On se lance. Allez, bonjour, vous écoutez Internet. Internet FM. Non, déjà, tu vous écoutez Laisse-moi kiffer, bien entendu, c'est l'épisode 9. Et devinez quoi, nous sommes de retour au complet.
Ouais.
Et même plus que ça, grâce à Monsieur Chaussette qui est avec nous.
Donc Cédric a découvert une marionnette chaussette et il a décidé de la garder pendant tout le podcast. S'il fait des choses bizarres...
Je tiens à préciser que j'ai les yeux qui grattent. Donc c'est probablement que ça contient un maximum d'acariens et que tu n'arrêtes pas de l'agiter devant ma gueule depuis une demi-heure.
Ah non, mais ce truc, il y a de l'anthrax partout dessus. Quoi.
Peux-tu cesser? Non, mais il continue en plus.
Je suis déjà fatiguée, putain.
Mais arrête de le faire voler, putain.
Mais c'est une marionnette un peu célèbre car elle a participé à... L'histoire racontée avec des chaussettes, c'est bien trop marrant. Le programme court.
On dirait la version des scouts.
Le programme de Yasuné et Dédi.
La marque pousse.
Oh là là, je vous hais tellement, c'est incroyable.
Mais c'est toi qui es chelou. Pourquoi c'est toi qui nous déteste alors que c'est toi le gars bizarre?
Vous me moquez. Moi et Monsieur Chaussette.
Putain.
On va taper Cheloudric.
Très mauvais.
Ouais, c'était pas bien.
Très bien, et bien comme nous sommes très organisés, commençons ce podcast avec comme d'habitude, j'ai l'impression d'être vraiment un présentateur de radio, comme d'habitude, les commentaires de nos auditeurs. D'abord, je voudrais faire un bisou à Justine02 sur Instagram, qui était notre millième abonné de Laisse-moi kiffer. Elle était là, genre, elle a fait une capture d'écran en mode « Oh, je suis la millième abonnée, y'a
oh, on l'adore voilà. !»
Du coup, tu as gagné un iPhone, tu sais, j'en fais un, j'ai fini autant.
Écoute, c'est toi directeur commercial de cette entreprise, n'hésite pas à lui envoyer un iPhone.
Ou alors un iPod Shuffle.
Bon, un banh mi, en fait.
Bon,
okay. Si tu viens à Paris, okay, on te viens, ouais.
Vas-y, une ouais. Croûte.
Tenue, Paris,
une
tenue.
Une croûte de banh mi.
Un mi.
Un deuxième.
Quoi? Un mi.
Le rapport que banh mi.
Moi, j'avais compris. Un deuxième commentaire, c'est Sinsin 2408 qui a remarqué que Laisse-moi kiffer, c'est LMK, c'est-à-dire Louise Mimi Kalindi.
Oh my god.
On va tellement zapper de cette
Elle demandait si c'est...
Voilà, mais voyez un petit peu les coulisses de cette équipe où tout le monde se hait et se s'entre-déchire. C'est Dallas en vrai, Laisse-moi kiffer les enfants.
Ah là là, donc il y a quelqu'un Il y a quelqu'un d'autre qui a marqué ça.
Dallas, c'était un peu Game of Thrones avant, Dallas. Je me dis, cette ref est vieille, comment je peux l'actualiser? Bah, c'était Game of Thrones dans les années 80.
C'est l'autre jour, on parlait des gens, ils savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter de parler. Bah, c'est vrai que c'est exactement ça. On va écrire un article pour toi qui s'appelleront 5 signes que les gens n'en ont rien à secouer. De ce que tu leur racontes.
Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'ils racontent.
Elle a dit de ce qu'ils s'appelleront. Un article qui s'appellera.
Ah, alors, déjà, tu vas apprendre à parler et puis après, tu parleras.
Alors, cette personne, Sinsin.
Et donc, elle remarque, laisse-moi kiffer, LMK, ça fait Louise, Mimi et Kalindi. Et il y a quelqu'un d'autre qui a remarqué le même truc en disant, est-ce que c'était fait exprès? Dans ce cas-là, un peu nul d'avoir exclu Cédric. J'étais là. Non,
j'avoue, je me sens stigmatisée.
Du coup, il y a quelqu'un qui demande si on peut pas faire changer de nom et dire, c'est laisse-moi kiffer pour avoir le Cédric.
C'est trop mignon. Vous êtes adorables.
Et on fait comment quand c'est Fab ou Queen Gami qui prennent leur lait? Ça, c'est une autre
laisse-moi kiffer fort.
Laisse-moi kiffer fort. Et pour Queen Gami, il y a
laisse-moi kiffer fort du cul.
Qui va me laisser kiffer fort?
Mais du coup, tu t'es enlevé
4 mots.
Il y a plus de C du coup, Cédric. Ça ne marche pas.
Qui c'est qui va me laisser kiffer?
Oh, il faut trouver des gens en V.
J'en peux.
Comment on intègre Monsieur Chaussette?
On l'intègre pas? Car vraiment?
C'est pas mon projet. Ça n'arrive pas.
Pardon, j'ai plus de micro.
Il a vraiment très envie de faire ça. C'est fou quand même. On t'a dit d'arrêter d'agiter ces acariens au-dessus de mon nez.
Un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est Terreur Nocturne. Terreur Nocturne, je vais le dire bien. J'ai du mal à le dire. Terreur Nocturne. C'est pourtant clair.
Il n'y a pas de piège.
Il n'y a pas de piège. Aucun piège.
Il est fort en figure de style, il faut
lui
reconnaître
ça. Il
lève
les épaules en mode, bah quoi, c'est vrai. Donc Terreur Nocturne nous envoie une photo d'un livre qui s'appelle Bibliothèque.
Vous êtes les pires gens.
En disant, un lieu, un meuble, maintenant un livre. Qui dit mieux?
Du coup, ça veut dire que tu peux aller chercher bibliothèque dans une bibliothèque à la bibliothèque. Ça, c'est quand même assez gueudant.
Ça, c'est fort.
Oh, c'est beau.
Mais alors, Terreur Nocturne, tu es la pire personne. Je te cède mon titre.
Un bel honneur.
Et le dernier truc, c'est que j'ai fait la liste de comment les gens nous appellent. Parce que la dernière fois, dernier épisode, Cédric n'était pas là. On a dit, OK, on s'appelle les bolos. Après, Kalindi a dit, bof, en vrai, c'est pas hyper classe. Alors, il y a des gens qui nous appellent.
Moi, j'adore.
Les Power Kiffers. La Brigade du Kiff. Les qui kiffent, simplement.
Je le dis depuis le début, hein.
C'est un grand nom.
Ça, on aime bien.
Bolos 4. Parce que les Fab Five, Bolos 4. Ouais, voilà.
Moi, j'aime bien la Brigade du Kiff et j'ai un peu envie qu'on s'en fasse des casquettes.
Ok.
Avec la Brigade l'argent. Du Kiff, ça
moi,
fait
j'aime
un peu
bien
la
les Colosses parce que c'est comme les Bolos.
Les Colosses.
Mais en. Il n'y avait pas les Colosses?
Non.
T'as juste décidé ça toute seule. Mais les c'est pas le premier
colosses.
Truc que t'as dit. Ah non, c'est les bolos. Non.
Ah, non, le premier truc que j'ai dit, c'est la brigade
les
du kiff.
Les pyramides de Khéops.
Non, les, je sais pas, les power kiffers, t'as dit.
Ah, oui.
Les power kiffers.
Zéro
mais
syllabe.
Non mais, d'accord. Ok, pas. J'admets la fatigue. Les power kiffers, moi j'aime bien. Et on aurait chacun une couleur et tout, ce serait assez stylé.
Ouais. Ah ouais, maintenant j'aime bien.
Voilà, ouais. Je sais comment parler à Cédric.
Ah, j'avoue. Ça y est, tu m'as vendu le
une
truc.
Combinaison en lycra et hop, c'est réglé.
Moi, la brigade du kiff, j'aime bien parce que ça fait sérieux alors qu'on est extrêmement con.
Ça fait un peu, ouais, mais ça fait un peu police du style, brigade du tigre, machin. Ça fait un peu vieille France.
Le mec, il a que des refs de 1960.
Non, les brigades du tigre.
Excellent film avec Clovis Cornillac.
On adore Clovis Cornillac.
C'était une excellente film. Mais à la base,
Emma Decaune.
Mais à la base, c'était une série.
Les brigades du tigre,
c'est
non,
une
c'était,
BD, il me semble.
C'était, ouais, non. Si. C'est pas des bouquins?
Non, c'est une bande dessinée. Je ne sais absolument pas ce que je raconte.
Non, la vérité, c'est que je pense que Les Brigades du Tigre, c'est soit des vieux bouquins, soit un vieux film qui a été repris il y a quelques années par je sais plus qui, avec Clovis Cornillac et Emma Decaune. Mais j'étais gamine quand c'est sorti, donc ça doit quand même un peu dater. Ça doit bien avoir une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années.
Et ça a fait un méga flop.
Bah, parce que c'était pas très bien, hein.
Ben oui, et c'était sorti en plein mois d'août, donc
alors
vraiment
que...
aucun intérêt.
Moi, juste Clovis Cornillac, je le ride comme une ouf toute la night quand il veut.
Sérieux, Clovis ah ouais Cornillac?
Ah, putain, je l'adore.
Nul.
Ah ouais,
il a l'air d'un bonnet, mais j'adore.
Un bonnet?
Putain,
tu es moi.
Je réfléchis à ça.
Alors, si je peux me permettre,
oui,
merci
pas
de.
À clore cette aparté, Brigade du Tigre.
Merci de respecter ma culture, les Brigades du Tigre, série télévisée, diffusée. De 1974 à 1983.
De rien. Véridaron, donc.
Chaîne d'origine, deuxième chaîne de l'ORTF, Antenne 2.
Oh putain, ça nous rajeunit pas. On était même pas
voilà.
De,
donc on parle pas vraiment sur
une série.
Sur une série et surtout sur la vieillesse. C'était ça mon point.
Ouais, bah Cédric, quoi. Alors moi, je vais rajouter un truc par rapport à ces commentaires. C'est que hier, mu par une envie soudaine, j'ai envoyé un message à une personne que j'aime beaucoup, car on a dit dans, il y a quelques podcasts maintenant qu'il fallait oser dire aux gens dont on aimait le travail qu'on aimait leur travail. Et j'ai envoyé un message à Henri Michel du podcast Rivière à détente et je lui ai dit « Ouais mec, tes podcasts sont trop cool. C'est dur de faire plus drôle que Laisse-moi kiffer, mais vous réussissez avec brio, haha !» Et il m'a répondu « Ah, merci beaucoup Kalindi et tout. » Et je lui dis « Franchement, un jour, si tu viens à Paris, viens faire un épisode de Laisse-moi kiffer, on en serait trop content. » Et il m'a répondu « J'en serais honoré. »
Ah, de ouf, ce serait trop bien d'avoir Henri Michel.
Ce serait la meilleure chose. Donc, si vous ne connaissez pas Rivière à détente, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller écouter, du coup, et nous dire si vous avez envie qu'on fasse un crossover, peut-être un jour, avec ce gros con, Henri Michel, dans le sens le plus positif du terme qui soit.
Et commencez à l'épisode 1, parce que vraiment, c'est un peu comme Laisse-moi kiffer, il y a plein de blagues filées et de... C'est limite un monde parallèle qui se développe, donc si vous commencez au dernier épisode, vous allez rien biter et vous comprendrez pas forcément tout au premier parce que c'est beaucoup d'absurde, mais au moins vous aurez les bases.
Bravo. Merci à toi, bisous Henri Michel.
J'avoue bien, wesh.
J'ai aussi un big up à rajouter. J'ai l'impression de faire une dédicace sur Skyrock, tu sais.
Ouais, dédicace au collège Jean Zé de Valence, 5ème B.
Non, à Océane, nouvelle stagiaire de la régie commerciale, parce qu'elle m'a dit tout à l'heure que pour montrer qu'elle aime Mademoiselle, dans sa lettre de motivation, elle a écrit « Vive les pistaches de la nature ».
Oh non.
Et je lui ai dit que c'était la meilleure rêve,
meilleure chose.
Et c'est exactement pour ça que je l'ai rappelé, pour qu'elle intègre l'équipe commerciale.
Et je lui ai dit, entre Cédric qui est dans Laisse-moi kiffer et Fab qui est le plus grand fanboy de Laisse-moi kiffer du monde, tu as très bien fait de choisir cette rêve là.
C'est vrai.
Bah, tout le monde fait des... Bah, moi, je fais un big up à ma mère pour tout ce qu'elle m'a apporté dans la vie et je t'aime très fort.
Moi aussi, maman, je t'aime, maman.
Je t'aime très fort. Vas-y, copie pas, c'est moi. Je t'aime très fort, maman, t'es adorable.
T'as fait un détournement de son big up, Kalindi, c'était chaud.
Ouais, Georgette, forever dans mon cœur.
Georgette, ta daronne.
Ouais, ouais, et on juge pas les prénoms de daronne, fais gaffe à toi.
Mais est-ce qu'elle écoute les choix qu'il
fait? Attention, mais non, elle écoute rien, elle connaît pas Internet.
Bah, bisous, Georgette.
Bisous, Georgette. Qui c'est qui nous écoute pas?
Oui.
Mini, mini, mini kiff, ta-na-na-na, c'est comme des kiffs, mais en plus petit.
Donc, qui veut commencer les mini kiffs?
Moi, je peux, parce que je suis chaude,
Mimi.
Du coup. Alors, mon mini kiff cette semaine, c'est une série télé, et c'est un kiff dont on a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, mais c'était pas moi, donc j'ai le droit. J'ai décidé.
On va quand même faire une heure et demie dessus.
Non, je vais aller vite, parce que je viens d'écrire un article extrêmement long sur la question, le lien est dans la description, voilà, vous pourrez aller le lire, car je ne vais pas assez parler. Mon mini-kiff, c'est The Handmaid's Tale, saison 2, qui, à l'heure où je vous parle, vient de s'achever, puisque le dernier épisode a été diffusé hier, mercredi, je sais plus combien, 11 juillet.
11, oui.
Et c'était vachement bien, et en fait, donc The Handmaid's Tale, c'est une série extrêmement déprimante, qui se passe dans un monde dystopique, donc un futur alternatif, où il y a des fondamentalistes chrétiens qui ont pris le pouvoir sur une partie des États-Unis et qui ont notamment été motivés par une crise de la fertilité où les gens n'arrivent plus à faire de bébés. Et du coup, ils se disent que c'est parce qu'on a offensé Dieu. Et donc, ils ont tout un système où il y a des femmes qui sont des handmaids, ce qui est un terme pour dire servantes, qui sont des femmes fertiles, qui sont... violées de façon rituelle tous les mois par l'homme auquel elles appartiennent, dans le but de concevoir un bébé qui sera ensuite confié à la femme et à l'homme. Donc la meuf, en gros, elle est violée, elle a un enfant, elle accouche, et ensuite, bye, elle va dans une autre famille pour faire la même chose. Donc, à la base, extrême sum, mais c'est une série qui, je trouve, est d'une qualité incroyable. Il n'y a vraiment jamais un épisode où je me dis « Ah, oh, cette semaine, c'était nul, quoi. » C'est toujours ouf, et c'est toujours dur, mais jamais... Il y a pas mal de gens qui disent « Ouais, c'est un peu du torture porn, tu sens qu'ils en font beaucoup et tout. » Et je suis là « Non, vraiment, c'est jamais... » Autant Game of Thrones, des fois, t'as des scènes de viol et de torture ou de bagarres hyper sanglantes où t'es là « Ok, c'est un peu long. » Autant là, il y a toujours un propos et c'est toujours bien. Et en même temps, il y a beaucoup... Paradoxalement, il y a pas mal d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la tragédie et de bonnes petites remarques bien acides et tout. Et bon, politiquement, c'est très chargé et ça aide à se rappeler qu'il faut rester vigilante sur nos droits. Et donc, la saison 1, c'était l'adaptation du bouquin La Servante Écarlate de Margaret Atwood, qui a été écrit dans les années 80. Et la saison 1, c'était tout le livre. Et du coup, la saison 2, c'était roue libre de l'intrigue, même si l'auteur les a aidés à l'écrire. Et ça se tient toujours très bien. Et ça vient de se finir et c'était ouf. Et j'ai pas envie d'attendre un an pour avoir la suite. Ça va être trop long.
Au moins.
Au moins, ouais. Parce que c'est une série avec pas mal de prod et du coup, peut-être...
Bah attends, ils ont dit qu'ils faisaient la saison 3, là, ça y est ?
La saison 3 est confirmée, ouais.
Ok.
Donc je suis contente.
Non, non.
Donc voilà, je vous conseille de regarder The Handmaid's Tale. C'est pas vraiment une série qui se binge parce que c'est assez dur et il y a généralement au moins un moment horrible par épisode. Mais du coup, ça vous fera un truc à regarder cet été, petit à petit. Et comme ça, après, vous pourrez aller lire mon article qui donne mon avis sur la saison 2 de The Handmaid's
Tale. Moi, justement, la première saison, je l'ai bingée. Je suis complètement passée à côté quand c'est sorti, c'est-à-dire que tout le monde m'en parlait. Je sais pas, par pur esprit de contradiction, je me suis dit non, vas-y, ça me saoule. Donc,
c'est trop mainstream.
Ouais, mais vraiment. Et du coup, je l'ai regardé sur le tard. Et donc, je l'ai imposé forcément à mon mec. Et on était comme ça. Oh mon Dieu! Et on a tout bingé en, je sais pas, même pas 24 heures, je pense. Big up à cette deuxième saison qui était vraiment extraordinaire. Et franchement, à chaque épisode, je me disais, putain, cet épisode-là est mieux que le précédent. Comment est-ce possible qu'il maintienne une telle qualité sur une série qui est quand même assez longue en termes de temps par épisode? Donc, t'as fini, Loulou, ou pas, là?
Est-ce que tu veux savoir, la dernière fois que donc on a parlé de The Handmaid's Tale, c'est moi qui ai présenté en disant « Je suis trop contente, The Handmaid's Tale, ça recommence !»
Et t'as jamais continué.
Et j'ai pas continué. Voilà, j'ai regardé les deux premiers épisodes de la saison 2. Mais parce que, ouais, j'avais pas le temps, mais justement cet été, je pense que je vais prendre le temps de tout regarder tranquillement.
Ouais, l'été, sinon, c'est le bon moment pour s'infliger ça. Ouais.
Bah, toute manière...
N'hésite pas à me live commenter par texto.
Avec
ça, je pourrais te soutenir.
J'adore faire ça.
Mais sinon, tu peux aussi alterner avec... la prochaine saison d'Orange is the New Black qui sort le 27 juillet.
Oh, comment ça me saoule, moi, cette série.
Ah, comment je kiffe, je surkiffe de ouf Orange is the New Black.
Vraiment, j'ai arrêté à la
saison. C'est
ça ton
mini-kiff ?
Deux ou trois.
Non, c'est pas mon mini-kiff.
Bah non,
c'est juste pour
sorti,
dire, histoire de, tu vois, de
non,
faire
mais je sais pas, genre, retrouver Orange is the New Black.
Rester sur des thématiques féministes, mais avec un truc un peu plus dark et un truc un peu plus léger. Les Russes, à l'époque, ils lisaient un livre dark et vénère et un livre un peu comique en même temps. C'était un truc qui se faisait
les
dans
Russes,
la...
à l'époque, quelle époque?
Oui, les Russes. Non, mais en fait, les Russes, ouais, genre fin 19e, quand c'était encore une grande nation de littérature, début 20e aussi, t'avais ce truc-là,
le mec
en fait.
Monte
où,
en clash sur la Russie moderne, très bien.
Non, mais t'avais ce truc-là qui était une habitude de lecture russe où ils lisaient à la fois un roman très très long et très compliqué et très, enfin, très intellectuellement prenant et un truc un peu plus léger à côté. Donc c'était
c'est
ce
comme
que
si
je.
Tu écoutais Affaires sensibles et Laisse-moi kiffer en alternance.
Voilà. Exactement.
Allez, à toi, Cédric.
Ouais. En fait, mon mini kiff, c'est un jeu mobile. Et ma passion, une de mes grosses passions des dernières années, et bah, c'est les escape games. Et donc, j'ai fait plein d'escape games à travers les villes de Paris, Grenoble, Lyon et Marseille.
Sachant des synonymes.
Je te déteste.
Arrête de lui couper la parole. On va en avoir pour 8h30.
Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est... Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un escape game pour nos amis de province qui n'en ont pas?
Ils en ont plein, t'es ouf. Un des meilleurs escapes que j'ai fait, c'est à Grenoble, qui s'appelle CCCP, qui a un très bon délire autour de... Genre, t'es enfermé avec des amis et c'est comme si t'étais... si tu faisais partie d'une expérience psychologique dans la Russie des années 80. On en revient à la Russie. Et du coup, t'as plein d'énigmes sur Minitel, des trucs comme ça. Ils ont pris en plus des objets des années 80, machin. Et c'est un des rares escape games où t'as deux fins.
Ça c'est cool.
Et ouais, meuf, t'as une fin normale et une fin alternative en fonction de à quel point, genre, sur le choix final, t'es en accord avec ce que le parti t'a dit ou tu décides de faire un peu ce que tu veux toi-même. Donc, très bonne escape game. Il faut aller à Grenoble. Il y a de l'hydromel à Grenoble, c'est une belle ville. Tout ça. Bref. Et donc, les escapes, j'adore ça, mais je vous parle pas d'escapes aujourd'hui, mais d'une certaine façon, un peu oui, parce que il y a toute une série. Transition, suivez-moi. Bear with me.
C'est comme ça la pire personne.
Bref. Et donc, en fait, il y a une série d'applis de jeux dont les 90% sont gratuites, qui sont des escapes, en fait, à faire sur téléphone. Et en vrai, je surkiffe ce truc-là. Et en fait, c'est une série qui s'appelle Rusty Lake, le lac rouillé. Et donc, en fait, il y en a une douzaine qui sont gratos, qui sont plein d'énigmes assez rigolotes. Et en fait, ça développe une histoire, mais genre... Twin Peaks, genre vraiment un truc tout foncedé de l'espace avec un dieu hibou et des gens chelous. Le truc est super drôle et tu suis en fait en filigrane un détective privé qui enquête sur un meurtre. Donc on voit un vrai côté Twin Peaks, mais qui est confronté à plein de trucs un peu surnaturels. Et donc t'as quelques épisodes de ce truc-là où tu voyages dans le temps à travers des époques pour modifier des trucs, pour revenir ailleurs et voir ce que ça a changé et tout ça. Et donc, au fur et à mesure, il y a plein de différents scénarios. Certaines applis se passent genre 100 ans avant, 200 ans avant. T'en as une qui est sur une famille complète et genre tout le jeu, c'est une trentaine de mini tableaux d'escape game sur comme un arbre généalogique où tu pars du premier fondateur de la famille et après ça développe avec les enfants, les oncles, les tantes qui sont assassinés entre eux, tout un bordel génial.
Bien. Ça a l'air trop bien. Ouais,
et donc en fait ça mixe à la fois le délire escape, tu dois cliquer sur les trucs, résoudre des énigmes, avoir de la logique, un délire narratif mais pété du cerveau que moi je surkiffe, et en plus un style graphique qui est assez cool, un peu badant et tout, marrant avec des fantômes et tout, et donc c'est trop bien. Et en fait, j'en parle parce que c'est mon mini-kiff, parce que le tout dernier épisode payant, mais ça coûte 1,90€, vient de sortir. Il s'appelle... Je regarde sur mon téléphone.
Jean-Michel, bonne mémoire.
Oui, en plus, il y a des petites musiques comme ça. C'est trop mignon. Non, c'est pas mignon.
C'est un peu flippant. C'est absolument pas mignon.
C'est The Stilake Paradise. Et donc, en fait, c'est une espèce d'exploration d'une autre famille pétée à travers les 10 plaies d'Égypte.
Réadaptée...
Ah, c'est pas du tout feel good. Mais, c'est un... mais après, quand tu résous les énigmes, t'es content, donc c'est cool quand même.
Mais alors du coup, sinon Cédric, ça va dans ta vie? Parce que,
mais j'adore,
de
mais
manière
moi...
générale, tu nous parles quand même de
Céleste.
Un peu badant.
Ah non, les orphelins, c'était
non, c'est pas badant, en fait. Non, il y a vraiment... Ça me fait... J'aime... C'est trop bien quand les choses sont un peu ambivalentes, tu vois. Genre, c'est pas vraiment joyeux, c'est pas vraiment triste. Et dedans, en fait, dans la... Dans la tragédie, comme disait Mimi, tu trouves beaucoup d'humour, tu trouves aussi beaucoup d'espoir.
J'ai cru qu'il allait citer Shakespeare. Mais...
bah, c'est mieux.
Bah, franchement, Mimi, c'est mieux que Shakespeare.
Merci.
Eh bah,
j'espère déjà, que ce sera l'intro de cet épisode.
C'est plus compréhensible.
Je pense que je peux le mettre en titre. Mimi, c'est mieux que Shakespeare.
Ah oui.
Ah
oui.
Oh, ouais.
Ah oui.
Ah ouais. Ouais.
C'est vrai,
je suis contente que tu parles de ça parce que j'avais installé une appli qui se présentait comme. Un escape game sur téléphone et qui était aussi une partie gratuite et une partie payante qui s'appelle un truc genre Escape the Room et c'était vraiment pas ouf. Non, c'était vraiment limite une image en flash où t'es dans une pièce et tu cliques sur des trucs, ça ouvre des tiroirs.
Oh, c'est chiant,
enfin,
ça.
C'était un peu cheapos. Alors après, voilà, j'y ai passé 30 minutes et au bout de 30 minutes, j'étais là... Pff, on dirait vraiment une escape game extrêmement pas chère. Voilà, j'ai cliqué partout, ouais. C'est chiant. Et puis... ça t'incite à payer, à regarder des pubs pour avoir des indices quand
oh,
tu bloques.
Chiant.
Enfin, c'est pas un jeu qui, oui. est, qui a un côté artistique, tu vois. Là, ton truc, ça a l'air dingo.
Il y a, en fait, j'en ai fait plein des jeux d'escape parce que c'est vraiment une passion. Et les 90% sont pourris. Les Rusty Legs, donc il y en a 12 qui sont sortis, il y en a 9 qui sont gratos, ils sont tous mortels. Et 3 payants, et c'est donc à 2 balles l'appli payante, et les trucs durent 5 heures. Et en fait, ouais, il n'y a jamais genre de pub intempestive ou de conneries comme ça. C'est enfin les gars sont ultra respectueux du joueur et c'est trop bien.
J'ai hâte qu'on finisse cet épisode pour que j'aille installer Rusty Lake.
Moi j'ai jamais fait d'escape game virtuel. J'en ai fait juste un vrai une fois dans la vie et c'était Assassin's Creed. J'avais jamais joué à ça, j'avais pas du tout de quoi il s'agissait, c'était
il
à Paris.
Il est bien.
Écoute, vraiment, c'est là que je voulais en venir. C'est que si j'avais pas été avec 4 autres personnes, je serais jamais sortie
de
cette
normal.
Pièce. Genre vraiment, littéralement jamais.
C'est pas
jamais.
Fait pour être... C'est fait pour que tu bosses en équipe et que t'aies plein de cerveaux qui travaillent ensemble, tu vois.
Ouais. Bah, moi, je pensais que ça allait flatter mon intelligence démesurée, mais alors vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, je me disais... Alors du coup, comme j'avais l'impression de servir à rien... Je faisais des trucs genre, enfin j'essayais de faire genre je faisais des trucs pour pas que mes potes pensent que je suis vraiment la dernière des bouseuses.
T'as tonné des trucs genre, qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Ah mais non, on n'a pas regardé par là, sur les pas d'indices. Voilà, ça a été un échec cuisant. Du coup, je me suis déguisée en mec des croisades pour passer le temps. Globalement, moi, tout ce que j'ai fait.
Moi, j'adore les escapes, mais je suis moyennement utile dans les trucs que je fais avec mes potes. Mais du coup, en fait, je continue à en faire et tout ça. De temps en temps, j'ai des fulgurances de ah en fait c'est le nombre de trucs qu'on entend, mais. Mais j'adore ça. Mais effectivement, je pense que mes potes sont là, genre, bon, il est vaguement utile.
J'aime. Ça va qu'il est sympa.
On l'emmène sur un coup de tête s'il y a de la place, quoi. Mais,
on a déjà fait,
est-ce qu'on fait un escape game tous ensemble?
Oh oui! Oh, mais oui! Oui
Three days later.
Oh, ça serait une super idée de faire une escape game tous ensemble. Est-ce qu'on a eu un problème d'enregistrement? J'ai l'impression que les choses sont différentes dans ce studio.
Les lunes ont passé.
Je me sens différente, je me sens plus vieille. Clairement.
Moi aussi, je suis plus vieille.
De 3 jours.
On est tous
plus proches de la mort. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Épisode 9, partie 2, ou je sais plus combien, à quel épisode on est.
Donc oui, on est à l'épisode 9. On a eu un léger souci d'enregistrement où on a continué à enregistrer un quart d'heure alors que on avait plus de place sur notre carte SD. Donc
on a continué à parler un quart d'heure, mais pas à enregistrer
oui,
du tout.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on a parlé et ça s'est perdu à jamais.
Voilà. Et donc on en était à ça serait trop bien de faire une escape game tous ensemble. Et en effet, je pense qu'on peut mettre ça dans notre programme.
Grave.
Oui, c'est clair.
J'ai trop hâte. Demande si on peut le faire en audio, comme ça, genre, les gens, ça leur spoilera pas l'histoire. Mais on pourra faire un montage débile de genre 8 minutes de nous extrêmement cons à essayer de faire du calcul mental. Et ce sera
yes.
Bon, alors enchaînons. Quel est ton mini-kiff, Kalindi?
Oh là là, mais oh,
est-ce
oh
que... J'ai hâte de le découvrir.
Oh, bah, j'imagine,
on a tous hâte.
Oh là là.
Attends, j'ai oublié.
Je l'ai méga oublié.
Si, ça y est, j'ai.
Ah, oh, vous avez, vous vous souvenez? Eh bien, c'est le bateau.
Ah oui, c'est vous.
Et en fait, c'est le bateau parce que le week-end dernier, je suis partie avec mes amis faire donc du bateau dans un endroit magnifique qui est le Cap d'Agde. Et donc, en fait, le Cap d'Agde est une région de France située dans le sud, peu loin de Marseille d'ailleurs.
C'est très naturel quand tu le racontes.
C'est très, n'est-ce pas ? Merci. Uh-huh. Et en fait, c'est un endroit où il y a un club, enfin un camp naturiste assez conséquent. Et donc, les tout nus de France et d'ailleurs viennent régulièrement au Cap d'Agde pour se faire dorer l'escalope en toute légèreté.
Et t'es-tu nue pendant ton week-end?
Eh bien non. Ah. À mon grand regret, j'aurais bien aimé me balader toute nue parce que c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie et que j'aimerais bien expérimenter une fois. Et donc, nous étions sur le voilier de mon ami Jean-Pierre. Le bateau s'appelle Tobago. C'était génial. On a fait une sortie en mer. Et en fait, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire et pourquoi est-ce que ça a été un mini-kiff? C'est parce que ça m'a renvoyé à un autre kiff de ma jeunesse qui était, je vous le donne dans le mille, l'optimiste.
C'est toujours aussi drôle.
Parce que...
Est-ce que c'est aussi drôle la deuxième fois?
L'optimiste.
Et l'optimiste, en fait, c'est un petit bateau dont Cédric donnera les particularités.
Cédric a déjà entendu cette histoire, mais il la redécouvre avec un naturel confiance.
Ah non, mais ouf.
Il est là, je dis, dis donc, qu'est-ce qui va arriver après cette phrase? Je ne sais pas.
Le poisson rouge.
Et alors, la semaine dernière, Cédric m'a demandé s'il y avait un bateau qui s'appelait le pessimiste. Eh bien, dans sa grande... Enfin, dans sa grande diversité d'esprit, encore une fois. Et donc, quand j'étais jeune, ma première classe de mer en CE2, c'était à l'île d'Oléron. Et nous avions fait de l'optimiste avec mes amis Elis Piecoq et Louisanne Roy. Et c'était un moment fort agréable. C'était ma première expérience, puisque l'optimiste est donc un bateau à voile minuscule.
Et tu c'était peux ma... combien de gens sur un optimiste?
Ah bah deux.
Et vous étiez trois?
Bah non, on était
vous
deux.
Étiez optimiste.
Non, non, on avait jeté Elis Piecoq parce qu'à l'époque, c'était. Ouais, ah. C'était mon binôme, c'était Louisanne. Du coup, on avait Tej.
Personne n'a soutenu Cédric sur cette blague. Vraiment, avec
qui on s'est regardé. J'ai pas entendu cette blague, t'as dit quoi? Non, non, ah oui, parce qu'on était trois.
Tu l'as même pas capté que c'était une blague. Tu l'as entendu, tu l'as.
Ouais, parce que j'ai pas
compris
que c'était une blague.
Dans la poubelle de la mémoire des blagues de merde.
C'est ça. Et du coup, voilà, ce moment en voilier, que j'avais pas fait du voilier depuis longtemps, ce moment sur la mer comme ça, à avoir le mal de mer et avoir un peu la gerbe, ça m'a rappelé l'optimiste. Et tout ce qui est nostalgie, moi, ça me procure un kiff immense à chaque fois. Voilà.
Mais, alors, mais du coup, pardon.
T'as le mal de mer même si tu vois même si tu vois ce qu'il y a devant toi, parce que moi je sais que j'avais eu des problèmes où j'avais le mal de mer quand j'étais sur un voilier derrière, mais dès que je me rapprochais de devant et que je voyais les vagues arriver, ça allait mieux.
Bah écoute, non, moi j'avais vraiment la gerbe, mais je pense que c'était surtout dû à la cuite que je m'étais pris la veille. Et en fait, ça a cessé une fois que j'ai eu été dans l'eau. C'est-à-dire que j'ai fait un plouf et de nager et de m'être rafraîchi la gueule et tout. Quand je suis remontée, j'étais folle d'énergie et du coup, j'ai sauté toute la journée dans l'eau. Mais j'ai régulièrement les mal de plein de choses. J'ai le mal de l'air aussi. Parce que, en fait, à un moment donné, je faisais du parapente. Et à chaque fois que je volais, j'avais une gerbe pas possible. Jusqu'au jour où, en fait, c'est moi qui ai dirigé le parapente. Et je me suis rendu compte que c'était d'être passive qui me donnait la gerbe. Alors qu'en fait, quand c'est toi qui commandes une action, tu te concentres sur cette action-là. Et t'as plus du tout le temps de penser à est-ce que je vais vomir ou non. Voilà.
Alors, il faut quand même que je me demande, est-ce que t'as déjà gerbé en parapente?
J'ai vomi après, ouais, la première fois.
Ah, après. Non, j'ai vraiment
pas l'air.
J'imagine un mouton qui fait sa vie, qui n'a rien demandé à personne, et baf, la gerbe de Kalindi qui tombe du ciel sur lui.
Et bah, c'est très drôle que tu dises ça, parce que c'était pas un mouton, mais en fait, la première fois que j'ai fait du parapente, c'était pour chercher l'ours des Pyrénées. Parce que c'était dans les Pyrénées, et en fait, il venait de réhabiliter, enfin, il venait de remettre l'ours femelle dans la nature, et en fait, je m'étais dit, putain, j'ai trop envie de voir l'ours, ce serait trop bien que je la voie de haut, et donc j'avais fait le parapente pour voir l'ours. Bon, bah, je l'ai pas trouvé, mais du coup, ça aurait été drôle que je vomisse sur cet ours juste
Ah oui, c'est clair! Ah oui, ça aurait été
elle
très
bien. Elle vient de rentrer à la maison, elle s'est fait gerber dessus.
Bienvenue dans les Pyrénées.
Moi, j'ai pris des cours d'optimiste quand j'étais petite. Parce que j'habitais à Pyriac-sur-Mer, attention.
Oh,
et en fait, en CM2, du coup, les cours de sport, c'était pas des trucs de merde. Nous, on allait faire de l'optimiste. C'était notre cours de sport. C'était d'apprendre à piloter un mini-voilier, quoi.
C'est trop bien.
J'avoue, c'est stylé.
Franchement, on devrait tous aller habiter sur Pyriac-sur-Mer juste pour pas avoir à faire de l'endurance, mais de l'optimiste.
Moi, je faisais du badminton à Montreuil-sous-Bois.
Ainsi qu'aller à l'école.
Nul.
À la mer.
Via la plage.
Pas ça, c'est cool. Est-ce que t'allais à la plage en sortant de l'école?
Ton école, elle était sur une île?
Non.
Qu'est-ce que tu racontes?
Tu allais à l'école en nageant à la plage.
Oh là là,
en passant par la plage.
Via la plage.
Via la plage.
Pas en nageant.
Tout à fait.
Il n'écoute pas ce que je dis.
Mais comment est fait ton cerveau? J'aimerais t'analyser.
Je sais pas, mais après, j'ai imaginé Minnie Louise qui arrive à la plage, qui nage pour aller à l'école. J'étais là, genre, mais pourquoi elle ferait ça? Ça n'a aucun sens, à moins que son école soit sur une île. Donc, du coup, je pose la question.
Pourtant, elle a appris à faire de l'optimiste. Ça n'a pas de sens. Pourquoi elle nage? Elle pourrait prendre un bateau.
N'empêche, pourquoi le mec qui a créé ce bateau, il l'a appelé l'optimiste? Il était en mode genre, est-ce que ce truc va vraiment tenir?
Ouais, c'est ça.
On verra.
Restons optimistes.
Voilà.
C'est une très bonne question.
Si vous avez des infos, n'hésitez pas à envoyer un mail à optimiste@mademoiselle.com.
Intitulez votre mail étymologie, sinon on le perdra dans tous les mails qu'on reçoit sur cette boîte mail qui existe à 100%.
Tout à fait. Non, mais vraiment, sinon écrivez-nous à une vraie adresse, parce que moi je suis très curieuse. C'est quelque chose que j'aimerais savoir. On pourrait se renseigner nous-mêmes d'ailleurs,
oui,
en allant
taper
sur Google.
Ça sur Wikipédia.
Mais en tant que bon flemmard, voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes professeur d'optimiste, moi j'ai une passion pour les profs de bateau, je trouve ça très sexy. Si vous êtes prof
de musique... elle veut pécho, elle veut une petite annonce. Si tu es prof d'optimiste, c'est que tu as moins de 62 ans, appelle-moi.
Ou plus, d'ailleurs, je suis pas très regardante. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram.
Ok, meilleure conclusion de mini-kiff. J'aime beaucoup.
Merci beaucoup. Et toi, Loulou, alors c'est quoi ton mini-kiff?
Alors, moi, mon mini-kiff, c'est Bandcamp Weekly. Ouais, je sais, ça donne envie.
Laisse-moi deviner, c'est de la musique.
Ouais.
Oui.
Mais non.
Oui. De la musique. Bandcamp Weekly, en fait, c'est une émission qui est diffusée toutes les semaines, c'est sur Internet, sur le site qui s'appelle Bandcamp, qui est un site qui permet aux artistes de mettre en vente leur musique sans être passé par un label ou quoi. En fait, si tu fais de la musique, tu veux la mettre en vente, tu peux passer par Bandcamp et mettre tes albums ou juste tes morceaux un à un sur le site et en vente prix libre ou choisir un prix, blablabla. Bref, c'est très bien. Il y a plein de super artistes cool, pas connus sur ce site. Et
est-ce qu'il y a des restas qui sont fait connaître sur Bandcamp?
Certainement, mais je pourrais pas te dire de nom. Je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui sont passés par là. Moi, je sais que je suis pas mal de labels indés qui, en fait, passent par Bandcamp parce que c'est un truc où ils prennent une commission moindre et donc, en fait, ils peuvent vendre leur vinyle, leur CD directement au public et c'est sans passer par les disquaires et compagnie. Du coup, ça leur rapporte plus de sous. Et aux artistes et aux labels. Du coup, c'est une bonne chose. Oui. Donc, ce site que je suis régulièrement a un show toutes les semaines animé par un certain Andrew Jarvis, qui est
Wardrobe.
Exactement.
Wardrobe.
Parkour. Qui est un. Pardon. Donc Andrew Jarvis, c'est le mec qui anime l'émission et en gros, il cherche à travers Bandcamp des artistes qui kiffent et il fait une interview avec un artiste de Bandcamp. Et voilà, c'est cool, il y a plein de trucs toutes les semaines, il y a je sais pas une quinzaine ou une vingtaine de morceaux par semaine à découvrir avec une interview un peu plus poussée d'un artiste et en vrai, c'est une mine d'or. Moi, il y a là par exemple cette semaine, je l'ai écouté et je le trouve pas ouf alors que la semaine d'avant, j'ai découvert 10 trucs différents où j'étais là, c'est trop bien, tout est trop bien. Et voilà, donc si vous aimez découvrir de la musique, je vous conseille Bandcamp Weekly, c'est trop cool.
C'est trop cool parce que moi je sais jamais par quel bout m'y prendre en fait. Très souvent, je sais vraiment pas comment chercher de la musique et comment mettre des nouveautés dans mes oreilles. Donc,
parce que toi et moi, Louise, on avait fait un sister-sister sur la musique parce que donc moi ça me touche pas trop et je m'en bats pas mal les couilles.
T'aimes pas toi la musique?
J'aime pas trop. Et tu disais dans la vidéo que toi t'aimais, enfin c'était vraiment un kiff pour toi de découvrir des nouveaux artistes et il y avait plein de gens qui avaient demandé dans les commentaires, mais comment tu fais? Parce que. Si tu tapes juste découverte musicale sur Google, c'est le bordel. Et du coup, ça a l'air d'être une bonne façon de faire.
Ouais, Bandcamp Weekly, c'est cool. Après, en fait, en vrai, il faut avoir envie et tu cherches plein de trucs et t'écoutes plein de trucs que t'aimes pas et tu tombes sur des artistes de temps en temps que tu kiffes.
Oui, mais tu les cherches où, genre, tu vois, t'as un service qui est fait pour découvrir de la musique.
En fait, Bandcamp, de manière générale, c'est cool parce qu'ils ont, tout un site un peu éditorialisé, une espèce de blog où ils font des trucs genre avec des artistes, des articles thématiques, il y a Bandcamp Weekly, il y a aussi genre des sélections. Là, j'ai écouté la sélection des best soul de Bandcamp du mois, tu vois. Et donc, du coup, ils ont une sélection de 10 artistes qui font de la soul. Et j'en ai écouté 4 pour l'instant. Et tout est trop bien. Je suis là, très bien, je vais ajouter ça à Radiomad. mais c'est vrai, en fait, à chaque fois que j'écoute des trucs, et dans le 6 sur 6 qu'on avait fait, je parlais de Human Human. qui est donc toutattaché.com. C'est un site pour découvrir pareil des nouveaux artistes. Après, c'est plus anglais, très pop, les trucs qui vont percer dans les mois, années à venir. Et donc je citais par exemple, eux ils ont découvert Lord avant qu'elle perce sur SoundCloud, et en fait maintenant ils sont là genre regardez, on a découvert elle et lui et machin et truc.
Donc c'est le bon site où aller si t'es le genre de personne qui aime bien dire ouais c'est devenu un peu commercial, moi j'aimais mieux avant.
Bah en fait c'est pas devenu un peu commercial, les trois quarts des trucs sur Human c'est vraiment de la pop qui, tu sais que ça va marcher à la radio quoi. Donc okay. c'est pas devenu un peu commercial, c'est à la base fait pour que ça marche. Après il y a des trucs, moi j'ai rajouté Aloïs Sauvage par exemple, qui est une meuf que je kiffe en France et qui était pas référencée sur ce site là du coup j'ai dit moi j'ai découvert ça, c'est cool.
Yeah. Ah, trop cool.
Et tu peux faire ça en fait, comme c'est un site collaboratif et participatif, tu peux toujours ajouter des trucs et potentiellement en fait je pense qu'il y a des artistes qui viennent sur ce site pour dire regardez-moi, écoutez-moi s'il vous plaît. Et il y a même sur Human, il y a une possibilité de demander au blog de faire une review de ton truc. Donc du coup d'écouter ton morceau et de te dire à toi, pas forcément sur un blog ou quoi, mais genre à toi.
Oui, en mode conseil et tout.
Si ce que tu fais c'est cool, s'ils ont aimé, s'ils ont pas aimé, pourquoi, etc. Et donc, du coup c'est vrai, c'est vraiment un truc de conseil. Et ils ont fait ça avec une participation financière. Donc du coup, par exemple, pour avoir un conseil de moi, tu dois payer $1 parce que c'est le minimum, je crois, du truc. Mais en vrai, je réponds jamais à ce truc-là parce que juste, je suis là pour découvrir mes trucs et pas donner des conseils aux gens car je ne sais pas quoi
c'est
dire.
C'est quand même trop bien. T'imagines si genre dans d'autres domaines de la vie, on te payait pour avoir ton avis sur des genre quelqu'un qui viendrait te voir dans la rue et qui te dirait « Je te file 2 balles et tu me dis ce que tu penses de ma coupe de cheveux. » Ce serait trop bien.
Meilleure idée.
Mais est-ce que c'est pas...
N'hésitez pas à nous demander de l'argent, à nous donner de l'argent contre des conseils. Moi, je suis
contre
très partante pour le faire. Hein.
Mais est-ce que c'est pas déjà un truc qui existe? Genre...
Bah déjà, on est un peu payé pour le faire. En fait, c'est un peu ce qu'on fait ici, déjà, d'être payé pour donner notre opinion.
Mais pas sur...
Tu vois, les gens viennent pas nous solliciter directement et nous donner directement à nous de l'argent. Enfin, il y a plein de gens qui envoient des mails à Mademoiselle pour dire « J'ai fait ça, si vous voulez en parler, jetez un œil, c'est cool. » Mais ils nous... Ils font pas un chèque avec, tu vois.
Oui, non.
On n'a pas un PayPal.
Mais n'hésitez pas à le faire maintenant. Hein.
Oui. Voilà, bravo. Hein.
Mettre en place
un nouveau modèle économique pour Mademoiselle.
Nouvelle ligne édito en direct.
Payez nos opinions, elles valent très cher.
Voilà, vous pouvez me demander des listes de films sur Instagram contre 15€. 15€, 1€ par film. Voilà.
Pire meuf.
C'est...
Tu vas mettre tout le temps les mêmes films.
C'est aussi cher que le cinéma. Ouais.
Non, je ferai un effort quand même. Pour l'argent, je suis quelqu'un d'honnête. Hein, faut le
si
préciser.
Vous payez plus cher, vous pouvez avoir des films qui sont pas mainstream. Et...
C'est vrai.
Voilà. Ah oui, des niveaux de snobisme.
Oh là là, mais attends, on lance un truc de ouf là. Hein.
Snob premium.
Aujourd'hui, on a plein d'idées, c'est pas possible. Hein. D'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que Bang Bang, ça ressemble quand même à Gang Bang. Donc...
Ok.
Alors vraiment pas Bent... Camp.
Bandcamp.
Ah si, oui, si tu changes
Band
un
camp.
Peu les syllabes, ah, ouais. Par exemple,
gang
les lettres,
bang.
Ça fait
ça
quand même bien.
Gangcamp.
Gang bang gang.
C'est War marrant ce truc de... Ce truc de découverte, ça me rappelle... Alors, on est dans l'archéologie du net, mais il y a 12 ans, feu le blog bien bien bien, auquel participait Henri Michel.
On l'aime.
Notre cher collègue de Riviera... Et en fait, ils avaient
genre
fait... Bien sûr, régulièrement.
Oui. On est dans le même domaine, c'est
dans
un collègue.
Dans ma tête.
Un confrère, comme on dit. Notre confrère de Riviera des
Et en fait, à un moment, donc sur Bien Bien Bien, ils avaient fait tout un article, genre, nous aussi, on va découvrir un jeune artiste que personne... Parce que c'était encore à l'époque où les blogs musicaux se tirent un peu la bourre et essaient de trouver lever des artistes tout neufs. Et donc, les mecs avaient fait un peu les coulisses de ce truc-là où ils avaient passé... Mais des centaines d'heures sur MySpace, parce que c'était encore MySpace
encore
à l'époque.
Bien sûr.
YouTube était à son tout début, et donc ils avaient passé des centaines d'heures à écouter plein de trucs tout pété, machin, à classer, à faire des documents Excel avec les artistes qu'ils avaient découvert, ceux dont personne n'avait jamais parlé avant. Donc à la fin, ils avaient fini par trouver un groupe qui est sorti de l'anonymat aussi vite qu'il y est retombé. et donc en fait voilà, c'était leur groupe qu'ils avaient trouvé, qu'ils ont défendu, ils l'ont porté un peu, ce truc là avait vaguement buzzé à l'époque, donc ils s'étaient fait quelques centaines de milliers, peut-être dizaines de milliers à l'époque sur le web encore, d'écoute avant que
oui.
personne n'en a rien à foutre et que ça se foire. Mais tout l'article, c'était justement les coulisses de « Allez, nous aussi, on découvre quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends cette décision et comment tu fais pour le faire ?»
Mais cela dit, c'est intéressant. Si vous cherchez de la musique et que vous avez la flemme, justement, de passer des heures et des heures sur SoundCloud ou d'autres sites, en fait, Bandcamp, Human, par exemple, ils ont ces deux services qui ont aussi des blogs et des trucs éditorialisés pour que tu passes pas 12 ans à chercher des trucs si t'as la flemme. Human, ils font tous les mois le best de Human, c'est une playlist et t'as juste à écouter et en fait si t'aimes pas les trucs tu passes et puis voilà, peut-être tu découvriras 2-3 artistes que tu kiffes, tu vois. Après souvent sur Human, c'est que des gens qui ont sorti 2 morceaux du coup c'est un peu dur de se faire une opinion. Mais sur Bandcamp, c'est vraiment sans fin et tu peux vraiment chercher. Ils ont un super moteur de recherche où tu peux chercher par les trucs qui sont en train de se vendre en ce moment. Si tu as envie de chercher des trucs qui sont des artistes qui sont en Australie, tu peux chercher des artistes en Australie. Moi, j'ai fait ça pendant un moment. Je sais pas pourquoi, j'avais un focus sur le rap australien. J'avais envie de savoir ce qui se passait là-bas. Et du coup, via Bandcamp, tu peux trouver plein de trucs. Et voilà. Et donc, ils font aussi de l'édito avec Bandcamp Weekly. Bandcamp Weekly. Voilà. C'était donc mon mini kiff.
Merci Loulou.
C'est trop bien. Merci beaucoup. Un conseil pratique.
Avec plaisir. Et joie. qui veut faire le jingle des gros kiffs?
Non, maintenant c'est les gros kiffs, c'est ceux qui sont super importants parce qu'on les a vraiment beaucoup aimés.
Bah ouais, super.
On adore.
Grosse énergie.
En tout cas, c'était énergique comme jingle. Hein.
C'était bizarrement un peu chuchoté.
Oui, bien aimé.
Étrange.
Le jingle ASMR.
Qui veut commencer les gros kiffs?
On refait le tour parce que sinon Kalindi elle aime pas quand on change d'ordre. Alors, mon gros kiff est extrêmement petit poney dans l'âme, car mon gros kiff, c'est l'amitié.
Ça a failli être le mien. Oh, je te jure, insupportable, d'accord.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amitié, donc on pourra en reparler.
Oui.
Mais donc l'amitié spécifiquement, parce que il y a 2 week-ends, du coup, maintenant, j'ai été passer un week-end pour l'anniversaire d'une copine qui était organisée dans la maison de sa mère en Ardèche, et je partais de Paris avec ma bande de potes, donc on est 5, et on est 6 avec cette meuf qui est la seule qui n'habite pas à Paris, et on a tous décidé de se mobiliser pour aller à son anniv. En partie parce que c'était une maison avec piscine et en parlait principalement parce qu'on l'aime très fort. Voilà. Et que c'est toujours elle qui se casse le cul à venir à Paris. Donc, voilà. On s'est organisé pour descendre en Ardèche.
Alors que vous avez pas de piscine à Paris?
Très peu. Ouais, très peu de piscine.
Clairement, c'est elle qui a le mérite d'être votre pote.
Donc, c'était très tentant. Et comme le train, ça coûtait un truc genre 160 boules par personne et que la moitié de ma bande, c'est des yeuves qui ont même plus la carte 12-27. Moi, je suis à ma dernière année, c'est très dur. On s'est dit, on va faire un road trip, on va louer une voiture et y aller en voiture. Et du coup, on était 5 dans une voiture pas si grande.
Trop
voilà.
Bien, j'aime trop les road trips.
Une petite Citroën et j'étais donc au milieu à l'arrière parce que je suis la plus petite et que je n'ai pas le permis, donc je n'ai aucun intérêt dans cette voiture. Je voulais faire des sandwichs pour avoir un intérêt. Finalement, on a mangé avant, donc c'était raté.
Dommage.
Et du coup, on a galéré pour sortir de Paris, évidemment. On a mis 1h30 à sortir du périph, un truc comme ça. Et après, il y avait bien 7h de route. Puis, on s'est un peu perdu à l'arrivée. En pleine nuit, on est arrivé à 22h30.
Wow.
Tout le monde était déjà bourré. Enfin, les mojitos avaient coulé à flot, clairement.
L'investissement,
quand même. Ils nous avaient attendu pour dîner. Du coup, les mojitos avaient coulé à flot dans des ventres vides. Donc, c'était plutôt la fête. Et on est resté tout le samedi à ce... Donc, on est arrivé vendredi soir. On a fait la fête. Ils ont pris un bain de minuit, enfin, un bain de 3h du mat, auquel j'ai échappé parce que j'avais un début de crève et j'étais là, en vrai, si je me baigne maintenant, mon week-end il est flingué. On a passé tout le samedi à chiller dans la piscine et à faire des barbecues, et le dimanche on a repris la route. J'avais ma crève qui avait triplé environ de gravité, j'étais très mal, je n'ai pas pu manger, j'avais très mal à la gorge. On s'est perdu en partant, on avait un GPS et je sais pas, on s'est dit, on sait par où on est venu, on va prendre le même chemin. Finalement, on a fini par aller plus au sud, à s'enfoncer dans la Deep Ardèche.
Barcelone.
Voilà. Mmh. On a eu des bouchons sur l'autoroute, on a eu des bouchons pour revenir dans Paris, on a dû laisser la voiture en grande banlieue à un truc genre 21h. Puis prendre un RE, un train de banlieue et 2 métros le temps de rentrer chez nous. On avait passé 9h dans la bagnole, on puait, enfin bref, rien n'allait, mais je me suis dit, j'ai quand même de la chance d'avoir déjà une bande de potes cool et une bande de potes qui est hyper positive, parce que personne a râlé alors qu'on avait toutes les raisons du monde de râler et qu'on était voilà 5 dans une petite bagnole coincée dans les bouchons, on n'avait plus d'eau fraîche, on avait flingué 3 playlists, personne avait trop envie, genre on faisait des jeux, tu vois, genre devine à qui je pense, et en fait au bout d'un moment t'es là, c'est long, mais personne n'a râlé et tout le monde a fait un petit effort pour que ce soit le plus positif et le plus cool possible, et j'ai trouvé ça trop bien, et je me suis dit ça aurait tellement été l'enfer avec ne serait-ce qu'une personne négative dans le groupe, oui. Et du coup je suis hashtag blessed d'avoir des amis qui sont aussi positifs, et j'y ai pensé parce que l'autre jour Juliette de la rédac est venue me demander comment je faisais pour être chill et positive malgré les aléas de la vie, parce qu'elle, elle a du mal et elle a tendance à stresser et à avoir un peu le verre à moitié vide. Et je lui ai dit, bah, tout simplement, en fait, quand je ne peux pas changer quelque chose, ça sert à rien de me prendre la tête avec. Et là, bah, typiquement, on était à 5 dans la bagnole, coincés dans les bouchons. Enfin, on peut rien y faire, on peut pas aller plus vite, on peut pas se téléporter. Donc, bah, on est là pour rester. Autant essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible.
C'est clair. Et moi, voilà. J'aurais quand même c'est vachement râlé.
J'ai pensé à toi à un moment, je me suis dit qu'elle aurait tellement râlé.
Bah, en fait, moi, c'était le week-end dernier, j'étais plus au Cap, mais j'étais en Normandie. Et pareil, on est parti avec 10 de mes potes, donc on a fait 2 voitures de 5. Et en fait, moi qui suis quelqu'un de très positif parce que en voiture, parce que j'adore faire de la bagnole, j'adore avoir les cheveux qui sortent et tout, écouter de la musique, machin, quand il fait beau, je me sens plus. Et manger des chips de manière grasse. Et en fait, là, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment vénère en voiture, mais pas pour des raisons, parce qu'en fait, t'es coincé dans les bouchons, bah t'es coincé dans les bouchons. Et parce qu'en fait, les potes avec qui je suis partie, donc en fait, à l'aller, je suis partie avec mon pote Alexandre, qui conduit 50 km au-dessus des limites autorisées. Et au retour, je me dis, du coup, je vais changer, je vais aller avec Jérémy, parce qu'il y a peut-être une chance de pas mourir. Et le mec conduit encore plus vite. Et vraiment, quand t'es à 60, voire 70 km/h au-dessus des limites autorisées, et que t'es à 180 sur la fucking autoroute, et que sur les routes de campagne, t'es à 120, t'es là, en fait, les gars, c'est pas possible. Donc j'ai pété un câble, je me suis dit, vraiment, c'est la première fois que je me vénère dans une voiture, parce que les gens sont quand même pas foutu de respecter ces putains de limites, voilà. J'avoue, c'était mon coup de gueule, donc si vous voulez vivre, respectez le putain de fucking code de la route, bordel.
Ouais, c'est clair.
Bah, non, mais ça, c'est une bonne raison.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
C'est une excellente raison de râler. Il faut râler. Ouais. N'hésitez pas à râler si vous
Ne laissez pas vos potes conduire à 180 km.
Non, mais ouais, du délire. Clair. Et après, je l'ai dit et on m'a fait putain, Cal, t'es chiante. Ça fait 2 fois que tu fais chier, sinon tu changes de bagnole. J'étais là. Alors, les gars, en fait, je tiens à ne pas mourir. Et autant vous cramez votre vie, c'est pas je m'en bats les couilles. Mais en fait, on est 4 en plus de toi dans la bagnole. Donc, juste tu ralentis, tu fermes ta gueule, tu vois. Et ça a été un point de discorde tout le week-end. Dès qu'on allait à la plage, c'était ils vont encore conduire comme des abrutis, tu vois. Ouais. Juste pour faire
Et t'étais la seule dans les 10.
Toutes les meufs, on râlait, et vraiment, les mecs, à part le mien, qui est tout le temps là à respecter le moindre truc, donc vraiment, il n'y avait pas de souci là-dessus. On l'aime, mais les deux mecs qui avaient les bagnoles, en fait, n'avaient pas envie de nous écouter, tu vois. Puis c'est des meufs, des mecs qui font du circuit de base et tout, c'est des mecs qui aiment la vitesse, mais là.
Mais faites ça dans un circuit, c'est très bien,
oui, c'est le but du circuit.
Ouais, mais du coup, je pense que quand t'as l'habitude de la vitesse, tu supportes plus du tout d'attendre et de faire les choses lentement.
Mais tu sais, là, il y a les routes à 90 qui sont passées à 80. Mais moi, tous les gens que je connais qui ont le permis, ils sont en train de râler. Je suis là, 10 km/h, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles,
clair,
vraiment,
on s'en bat les couilles.
Genre, vraiment, on s'en fout.
C'est clair.
Et... Non, c'est un coup de main à prendre. Tu vois, là, bah, en fait, nous, quand on était en voiture, c'était le premier jour de cette nouvelle. Enfin, on est parti la veille et on est revenu, du coup, le lendemain de cette mise en place. Et c'est juste que, oui, quand t'as l'habitude d'être à 90, faut juste te rappeler. Mais tu vois, on avait un régulateur de vitesse ou je sais pas quoi sur la bagnole. Et on a dit au conducteur, c'est 80 maintenant. Il a fait, ah oui, il a branché le truc. Et puis, au pire, même si t'en as pas.
Bah,
tu regardes et tu fais un peu gaffe, tu vois, le temps de te remettre au niveau, c'est pas grave, ça. Vraiment.
Ma conclusion, soyez vigilants sur la route, on le répète pas assez, n'hésitez pas à vraiment respecter le code de la route, c'est important pour votre vie et celle des autres.
Tout à fait.
Et soyez positifs.
Et soyez positifs, tout à fait.
Car quand même, les gens vous en remercieront et ça ne sert à rien de souffler et de râler quand tout le monde est dans la même galère. Voilà. Ah ouais. C'est comme les gens qui... T'es coincé dans le métro il est coincé dans le tunnel et les gens ils soufflent et t'es là... Ça ne sert à rien. Tu diffuses de la négativité. Tout le monde pense ce que tu penses. Tu n'es pas spécial. Merci de ne pas. Laisse-moi dans ma Laisse-moi kiffer finalement.
Laisse-moi dans kiffer. Ma petite bulle avec mon petit podcast. Arrête au lieu de me souffler,
personne kiffe quand t'es arrêté dans le métro comme tous les jours. Mais non, tous les jours pendant 20 ans.
Écoute, tu peux rien. Est-ce que souffler ça sert à quelque chose?
Ah, moi je souffle pas, mais dans ma tête vraiment.
Mais moi aussi dans ma tête je suis saoulée, mais dans ma tête tu vois.
Dans ma tête j'en suis vraiment les gens qui marchent sur les fucking rails. Je suis là, pourquoi vous faites ça à 8h du matin?
Je comprends. Ça m'est arrivé la dernière fois pour prendre le train. À l'heure du départ, le train n'était pas sur le quai. Mais on partait de Paris, donc vraiment, le train pas sur le quai, c'est pas genre, vous avez du retard de la gare d'avant, quoi. Non, juste,
il est encore dans le garage, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il n'est pas là.
Et
il ne viendra pas.
Il y avait vraiment tous les gens sur le quai qui étaient blindés, il était blindé et tout. Et tout le monde était en train de faire les 100 pas, regarder s'il arrivait et tout. J'étais là. Vraiment, ça ne sert à rien. Ils ont dit qu'il y avait 15 minutes de retard, donc il y aura 15 minutes de retard.
Prenez 15 minutes, je sais pas, achetez-vous un coca, fumez une clope.
Mais les gens, ils ont une capacité à être vénères, ouais, sur des non, conneries ça, du quotidien comme ça. Genre,
et bah, là, moi, ce qui m'a aidé, c'est la méditation, en fait. J'étais là, genre, en effet, la méditation m'a dit plein de fois, tu ne peux pas changer le truc si t'es saoulé. En fait, ça ne changera rien au truc. Donc, du coup, j'ai fait, bon, bah... On va attendre, j'ai écouté de la musique, et j'étais en train de chanter The Carters, le nouvel album de Beyoncé et Jay-Z, c'était formidable.
Alors moi, ça soulève une grande question, tu viens de dire un truc très juste que j'avais, auquel j'avais jamais pensé, c'est on les met où les trains?
Ah. Et où est-ce que les trains ils vont faire dodo quand ils sont pas sur les rails?
Mais non, mais j'avais jamais pensé à ça. Où est-ce qu'on met les trains?
Ils sont dans les garages, enfin les voies, ouais, t'as des dépôts. En fait, dans
mais
le 20e,
ils restent sur les rails,
côté...
on les sort pas des rails.
Non.
Non, ils restent sur des rails, mais après, ils vont dans le 20e, là où j'habite, il y a un truc, un espèce d'immense entrepôt de la RATP qui sert au métro. Et en fait, tu vois, le métro 3, donc dans le cas présent, soit il va, une fois qu'il a Gallieni, qui est la fin du métro 3, après, il y a des rails qui continuent et qui le ramènent dans le dépôt du 20e. Donc, c'est des rails de métro. Et donc, je pense que c'est pareil pour
c'est les
trains.
Secrets.
Ils vont jusqu'à l'entrepôt.
Oui, tout à
si
fait.
Si tu t'endors dans un train, un jour, tu peux te réveiller dans un entrepôt de train. C'est un endroit assez bizarre.
Elle va faire exprès la prochaine fois. Elle va prendre le train. Elle va
attendre. Trop pas. J'ai vu un film d'horreur là-dessus. Ça m'a plus envie de le faire.
Ça m'est arrivé une fois en avec un très très bon ami. On s'est retrouvé du
Est-ce
coup.
Est-ce que c'était Anus
putain, non, c'était pas Colossus. j'étais beaucoup plus jeune que ça. Et on s'était retrouvé à l'entrepôt des trains. C'était à 5
heures. C'est des méthodes de l'entrain dans cette histoire. Allez!
Franchement, il n'y avait pas spécial. Enfin, voilà, on était là.
Comment tu vis une fois que t'es là-bas? Comment tu sors? Genre, tu vas voir un mec.
Tu sais, tu peux sortir. Non, mais t'as les trucs automatiques, les ouvertures de portes, quoi, tu sais. Tu peux ouvrir manuellement les portes. Donc, on est sorti. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup de trains autour de nous. C'était des TER, tu sais, des bonnes vieilles Micheline. Et tout ça. Et donc, du coup, on était là, on disait, eh oh, eh oh. Et en même temps, t'es là, genre, ah, c'est quand même un putain d'entrepôt de train, ça fait bader du cul.
T'as pas envie d'être le mec dans clair. Le film d'horreur qui est là, il y a quelqu'un, allô?
Ah, c'est clair. Soit le slasher, soit le groupe de drogués au crack.
C'est clair.
Tu vois, t'es vraiment genre. Et en plus, tu sais pas vraiment où t'es, parce que c'était à une époque où on n'avait pas encore des smartphones, mais genre des bons téléphones à clapet, à part jouer au serpent, il se passait pas grand chose dans ta vie, tu vois.
En tout cas, j'espère que vous qui écoutez cette émission, vous aimez les transports en commun. Hein.
C'est
ainsi
un peu
que
le
tout
thème.
Ce qui est véhicule.
Et donc, bah, pour en sortir, le mec nous avait dit, bah, il y a ce train-là qui va retourner en activité, monter dedans. Et puis après, t'arrives sur
le train. Le mec, c'est tout Sheldon seul Cooper. Dans le train avant que le train soit sur les vrais rails. C'est quand même cool.
Ouais.
Très bien. Eh ben, ouais.
Eh ben, si vous aimez les transports en commun, n'hésitez pas à envoyer un mail à je kiffe les transports en commun à mademoiselle.com.
Tout à fait. En tout cas, bravo à tes amis, Mimi.
Oui. Je les aime beaucoup.
Oui.
On leur fait des bisous.
Oui, je leur ferai un at sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Comme ça, ils sauront que j'ai parlé d'eux parce qu'ils n'écoutent pas Laisse-moi kiffer.
Bien sûr.
Sauf peut-être Romain. Bisous Romain si tu écoutes cet épisode.
En tout cas,
avant
on voit
que
qui
je vous
sais parce que t'as fait
Romain.
Des stories, on a suivi ton week-end. C'est fou maintenant, on peut savoir ce que les gens font vraiment de leur week-end. Genre parfois, je veux raconter mon week-end et tout le monde me fait ouais, je sais. Enfin, t'as tout mis sur Insta. Et j'étais là, oui, c'est vrai.
Mais je trouve quand même que tes stories sont génératrices de curiosité. Tu sais, on a envie d'en savoir plus.
Oui.
Je pense que la semaine dernière, je t'ai juste demandé c'est qui tes potes parce que tes stories n'avaient pas de sens. Il y avait des gens habillés n'importe comment autour d'un feu. Il y avait une fille avec le crâne rasé. Après, vous aviez refait Harry Potter. J'étais là. En deux jours, ça fait beaucoup, tu vois. Nous, en deux jours,
on a fait des défilés sur fond de musique électronique très qualitatif avec des baguettes de pain et tout.
C'était bon.
Et après, on a déguisé mon mec avec des soutiens-gorge. On lui a fait une couronne. On les emballe dans du PQ. Enfin, on est très imaginatif. Oui.
Moi, j'ai joué au ballon dans la piscine. Voilà. C'était moins. Ça apporte moins de questions.
Ah, oui.
Mais c'était très bien.
Cédric, c'est quoi ton gros kiff?
Ah oui, mon gros kiff. Déjà,
oui,
j'ai un kiff. Non, j'ai un kiff une sorte de kiff intermédiaire. C'est que la dernière fois, pendant qu'on était en train de parler sans que ça enregistre,
Kalindi m'a montré en direct comment lire les messages des gens sur Instagram. Et
oui.
Donc j'ai,
oh oui,
j'ai découvert que j'avais il y avait 28 messages ou 29 messages.
Ah oui, parce que Cédric nous a dit il y a une personne qui nous a envoyé un message et en fait depuis personne d'autre m'a envoyé des messages, j'étais là, t'es sûr Cédric, parce que vraiment on a fait un appel, on a mis ton Instagram et tout, c'est obligé qu'il y a des gens qui t'ont écrit. Et il a découvert les demandes de MP sur Instagram.
Ouais.
Qui est l'équivalent de la boîte autre de Facebook.
Exactement.
La boîte où vont tous les messages des gens que tu ne connais pas encore.
Et voilà. Du coup, il y avait effectivement plein de messages de gens qui étaient trop, trop super choupi et trop gentils. Il y en avait deux, trois qui respiraient la pitié. Genre, tiens, je t'envoie ce message parce que personne t'en envoie.
Mais ça, c'est dans ta tête.
Ok,
hein.
Merci.
Non, mais le mec,
t'as ouvert sous nos yeux un message qui disait « Salut Cédric, trop bien, laisse-moi kiffer. » Et t'as dit « À mon avis, c'est de la pitié. » Genre, tu as raison.
Ça n'a pas de sens.
T'es parano.
Ouais, moi, j'entends
vraiment, tu sais. Envoyez des MP sur Instagram.
Envoyez des MP
Cédric.
De pitié à.
Ah oui, c'est drôle.
Fille,
mais vraiment, dis-lui bien, c'est que de la pitié. Je ne te connais pas.
Je ne te connais pas, je ne l'aurais jamais fait, mais parce qu'on me l'a demandé, je t'envoie ce smiley trombone.
T'as un sous-sens, Cédric.
Je te jure.
Mon gros kiff, ça va être original, c'est des escape games. Le mec.
Oh non,
putain, ah, attends, du coup, je l'ai pas dit. Je profite, je t'interromps pour dire
cette
que depuis, comme on a enregistré cet épisode en deux parties,
oui.
J'ai entendu il y a quelques jours ton mini kiff sur l'appli d'escape game là, mon
Rusty Lake.
Rusty Lake. Entre temps, c'était le week-end et j'avais trop envie d'y jouer. Tu m'as tellement hypé, donc j'ai installé les trois premiers. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand Cédric dit il y a des éléments un petit peu stressants, non, c'est un jeu, ça fait super peur. C'est un jeu d'horreur. À un moment, tu pêches dans l'épisode 1, donc voilà, c'est un spoiler de l'épisode 1 sur 14, donc c'est pas très grave. Tu pêches un cadavre que tu dois taillader et après le cadavre, et c'est genre un cadavre tout noir avec juste les yeux blancs qui brillent comme ça, t'es dans une cabane au bord d'un lac. Et après, à la fin, genre la fin de l'épisode, c'est la seule fin, t'en as pas d'autre pour l'instant, mon gars, c'est le cadavre qui sort de l'eau et qui remonte vers toi. T'es dans une cabane hyper creepy en mode Stranger Things, l'Upside Down, tu vois. Et le cadavre, il sort de l'eau avec ses gros yeux là et il vient vers toi. Et, et le seul truc que tu peux faire, c'est taper sur l'écran et ça le fait avancer. Et j'étais là, mais niquez-vous. C'est quoi ce truc? Ça fait super peur. Après, je me suis dit, bon, j'ai survécu à l'épisode 1 avec un peu d'aide de Google parce que je suis extrêmement gaulement. Je vais donc faire le 2 maintenant que je sais que ça fait peur. Et ben, j'ai pas pu finir le 2 parce que ça fait encore plus peur et que j'aime pas du tout ça. Voilà.
Attends, le 2, c'est l'enquête, c'est Season, celui
le 2,
tu
c'est avec une
entre...
photo et tout, je sais pas quoi.
Et tu
là,
passes entre plusieurs époques. Ouais.
Et celui-ci, d'époque c'est en époque, c'est pire en pire, hein, je peux te dire, mon gars. Donc, sachez que c'est certes très bien et très joli et très quali et gratuit et tout. Mais ça fait peur, sa mère. Donc en fait, si vous aimez pas les trucs qui font peur, ne jouez pas à fucking Rusty Lake, car c'est très flippant.
Mais est-ce que ça se joue sur ordinateur ou sur téléphone?
Sur téléphone.
Sur téléphone.
C'est une app.
Mais t'as peur sur un téléphone?
Oui, mais en fait, tous les jeux... Enfin, en fait, c'est toi qui es acteur du truc, tu vois. Et c'est en fait, les jeux qui font peur me font encore plus peur que les films d'horreur. Parce que les films d'horreur, je peux juste me cacher et attendre que ça passe. Les jeux, le jeu, ça n'avance pas.
Il attend que tu sois là pour te faire peur. Il fait « Hey, je t'attends. »
Vraiment,
là, j'ai
tu
un
poses
truc,
ton
là,
téléphone,
vas-y,
le jeu, il est... À un moment, j'avais quand même tourné mon téléphone dos à moi parce que je voulais pas voir le monstre s'approcher. Et du coup, j'avais tourné... Genre, je regardais pas l'écran et j'appuyais juste dessus au pire.
Vite, la pire meuf.
Pour voir s'il y a un truc après. Ben, il y avait pas de truc après, c'était
excellent.
Je tiens à dire que j'ai vu le film Ça avec le clown horrible.
L'original
avec...
ou le...
Non, celui de l'année dernière avec Mimi. Et vraiment, c'était un des pires moments
c'était
cinéma de ma vie.
Parce
qu'elle arrêtait pas de couiner. Et en plus, elle était cachée sous sa veste en jean. Et j'étais là, vraiment, meuf, pourquoi t'as peur? Tu vois rien du film, littéralement rien. Et voilà, elle a beaucoup couiné.
Oui.
Mais moi, vraiment, juste un truc sur les trucs qui font peur, si vous aimez justement ces trucs-là qui font peur, il y a quelques années j'ai testé pour la première fois la VR et en fait...
La réalité virtuelle
et en fait c'était les nouveaux masques de je sais plus quoi. Moi qui suis donc coutumière des films d'horreur, j'en consomme beaucoup, là vraiment je me suis retrouvée donc immergée dans un espèce de truc où il fallait que j'aille dans un mini train dans le noir, mais en fait il y avait des espèces de créatures qui apparaissaient de tous les côtés et après il fallait que je prenne le train et en fait c'était comme un train fantôme et je passais au milieu de porcs qui étaient en train de se faire trancher, il y avait du sang qui coulait de partout et des zombies qui me couraient dessus et vraiment le truc, j'avais 10 minutes d'essai plus un quart d'heure d'essai ou un truc comme ça, j'ai tenu 3 minutes, j'arrêtais pas de hurler et genre quand j'ai enlevé le masque, après je transpirais tellement que j'ai dû nettoyer les lunettes à l'intérieur et tout, et je me suis levée et il y avait de la transpi mais partout sur la chaise, ouais. Tellement j'étais stressée et en plus il fallait tirer, t'es acteur aussi donc il fallait tirer sur les zombies, j'arrêtais pas de me tirer dans les pieds tellement j'avais peur, je voulais pas regarder donc je tirais dans mes pieds, c'était n'importe quoi. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu mais franchement les chocottes, un truc de ouf. ou en jouant à un jeu. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, vous vous retrouverez en tapant zombie, train, port, tranchée.
Ouais, en fait, ce jeu. Non, mais en fait, ce jeu, comment il s'appelle? À la base, t'as un jeu sur PlayStation où t'as 8 personnages qui doivent survivre toute une nuit et t'as un truc entre slasher et monstre dans des grottes. Et donc, en fonction de tes actions, tu vas pouvoir faire survivre les 8 ou 2 ou 0. Et donc ce jeu-là est assez cool parce que c'est genre vraiment un slasher à l'américaine, mais où
t'es acteur. C'est quoi slasher? Parce que je comprends pas.
C'est quand t'as c'est genre Freddy ou des trucs comme ça.
Un slasher,
Halloween.
C'est un maniaque qui souvent attaque à l'arme blanche un groupe d'adolescents. Voilà.
D'accord.
Et je crois que ça. Ouais. Voilà. Et je crois que le genre naît avec Halloween.
Clairement.
C'est le premier slasher. Et donc du coup voilà, ça c'est ce jeu est assez marrant. Effectivement, en VR, ils en ont fait un truc de shoot sur rail. Qui n'a aucun rapport avec l'univers originel, qui est assez rigolo. Tout ça. Mais les jeux de réalité virtuelle en horreur, c'est génial pour
hardcore,
avoir une crise cardiaque immédiatement.
Hardcore, ouais.
Donc bref, oui, les escape games. Et en fait, donc c'est pas pour parler d'escape, mais c'est pour parler de livres escape games. C'est Escape Game Paris, un site qui peut vous guider sur les escape games et les meilleurs escape games de cette ville, mais aussi de grandes villes françaises, qui édite en fait des petits livres, donc de, je sais pas, une 70 pages, qui fonctionnent un peu comme des livres dont vous êtes le héros, et où les énigmes, c'est de retrouver le chiffre qui t'amène à la page d'après et tout ça. Et donc, ils en ont édité une douzaine, donc tu peux choisir un peu tes thématiques. Il y a des enquêtes criminelles, genre il y en a trois qui viennent de sortir, ça coûte 8 balles, le livre, ce qui est toujours vachement moins cher qu'un escape.
Oui.
Et donc, il y en a un là qui s'appelle Casting Mortel, par exemple, où en fait, t'arrives à 3h du mat. Genre, donc, le livre, ça commence sur un truc de texto où t'as ton indicateur qui dit hey, viens là dans les locaux de Casting plus de la Nouvelle Star du Futur Production. Il y a quelqu'un qui est mort, il faut absolument que tu retrouves qui est l'assassin, qui est la victime et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et donc, déjà, le SMS, tu dois un peu décoder le truc pour trouver la page pour suivre l'aventure. Et après, tu arrives sur donc dans l'espace de casting et donc tu as plusieurs chiffres. Donc, c'est à toi de choisir un petit peu dans quel ordre tu fais ton aventure et tout le bordel.
Waouh.
Et donc, c'est en vrai, moi, ça me fait grave triper. C'est un peu comme un escape. Tu mets ton téléphone, tu as 60 minutes, tu déclenches le minuteur. Après, tu fais ce que tu veux avec, quoi. Et tu peux écrire avec ton crayon et ton stylo à côté. C'est un peu une activité de geekos où tu es tout seul dans ton délire. Et certaines des énigmes, en fait, elles te demandent d'aller chercher des trucs sur Internet et tu vois des vidéos ou des trucs de caméra de surveillance.
Waouh.
Et donc, tout ça est assez gaulerie.
Mais j'ai une question.
Wesh.
Quand est-ce que tu trouves le temps de faire ça, sachant que t'as un môme et une activité professionnelle?
Le soir, quand il dort.
Ah ouais.
Quand l'enfant dort, tout d'un coup, t'as genre 1h30 de libre devant toi le soir.
Ouais, gros kiff de la semaine prochaine, ce sera mon stérilet. Qui m'empêche de vivre ça.
Mais et cela dit, moi, ça m'impressionne grave. J'ai toujours été impressionnée par les gens qui créent des univers comme ça, où il y a des énigmes et tout. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous arriviez à faire ça et que ça soit assez dur pour que d'autres gens galèrent sur ça? Alors que, enfin, je sais pas, je suppose qu'ils sont pas tout seuls. Mais même à plusieurs
Ça dépend. J'ai un pote Fibre Tigre, que les auditeurs de notamment Studio 404, un très bon podcast, connaissent probablement. C'est lui qui a écrit les deux escape room de La Pièce, qui est une escape room à Paris, à Strasbourg-Saint-Denis, qui est vachement cool. Donc la première, c'est à thème Alice au Pays des Merveilles, et la deuxième, c'est à thème Perdu dans l'espace. Et donc c'est lui qui a écrit les énigmes, et en fait, il est passionné de livres dont vous êtes le héros depuis des décennies, et il est hyper gamer et tout, et ça m'étonne pas que du coup, il a un cerveau qui a déjà une appétence pour les énigmes, et il est aussi passionné de maths, et je pense que c'est une logique qui aide à créer des trucs qui sont cohérents. Mais la première, Alice au Pays des Merveilles, est faisable, enfin elle est pas spécialement dure. La deuxième est hyper dure,
elle est vachement
un taux de succès de genre
chaud.
12%, enfin c'est absurde. Mais il faut aimer le, enfin t'y vas pas pour gagner, t'y vas pour voir jusqu'où tu peux aller, parce que vraiment t'as statistiquement peu de chances de gagner,
et t'y retournes et t'y retournes.
Bah non, parce qu'à la fin ils te montrent quand même
non.
Ce qui te reste. Bah si, parce que enfin après moi j'y étais, j'étais très contente, je l'ai fait avec deux ingénieurs, mon mec et une copine qui est ingénieure, et je pense que nous fallait ces deux cerveaux d'ingénieurs, parce qu'avec mon autre pote on n'a pas du tout l'esprit mathématique et on était un peu à se balader genre oh caillou rigolo pendant qu'il faisait des opérations et tout, et donc on a été bon pas jusqu'à la fin mais pas très loin, et celle-là elle est hyper dure, et en fait j'en avais parlé avec lui et j'étais là mais je comprends pas comment tu peux créer ça. Pour lui, bah, c'est son métier, et en fait il raconte des histoires et il fait des énigmes, et du coup
ça lui va bien, quoi.
C'est ce qui est.
À propos de Fibre Tigre, je vous conseille le Nouvelle École de Fibre Tigre, qui est grave cool.
Oui, carrément.
Voilà, c'est un autre podcast. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en note.
On adore les podcasts.
Et en fait, sur effectivement les livres mis en énigme comme ça, c'est les livres sont assez inégaux. Pour moi, les meilleurs, c'est ceux de Clémence Guédon, qui en fait est aussi l'architecte et la conceptrice de Epsilon Game, donc le patient de la chambre 8, qui est l'un des meilleurs escape games de cette ville, parce qu'en fait, pour moi, peut-être le meilleur. Parce que déjà, en fait, il est assez accessible, que les énigmes sont ultra variées, que l'univers, il est super rigolo, que ça fait appel à l'audio, aux yeux, à un peu de réflexion, sans que ce soit jamais trop tarabiscoté ou trop incompréhensible. Et je trouve qu'en fait, elle est super forte pour réussir à créer des énigmes où t'es quand même un peu guidé dans le truc. Et effectivement, il y a un côté très livre dont vous êtes le héros, et à mon avis, je pense qu'on on devait lire la même série quand on était petit avec Clémence Guédon, la série des Chevaliers de la Table Ronde, où tu dirigeais ce jeune chevalier qui s'appelait Pipe. Et en fait, tout le truc fonctionnait. Tu te baladais tout le temps dans des endroits. T'avais des cartes de la ville à la fin du livre. Et donc, tu choisissais où t'allais dans la ville. Et c'est comme ça que tu gérais ton aventure. C'était de l'open world. Tu retrouves vachement ça dans les escape games qu'elle écrit pour ces trucs-là. Et c'est trop, trop bien. Et donc, ouais, ceux de Clémence Guédon sont particulièrement cool. Et il y en a un qui est assez génial que j'ai fait en fin de semaine dernière, qui s'appelle Destination Terre, où tu dois réparer ton vaisseau. Et t'as plein de trucs comme ça, où donc tu dois te balader là, tu dois garder des infos pour plus tard et tout ça. Et donc, en fait, t'as vraiment un vrai trip d'exploration et d'énigmes. C'est jamais complètement bloqué. Et c'est trop cool.
Ça donne envie.
Ouais, grave.
Tu me les voilà. 8 balles. Oui, je les ai tous à la zonzon.
Tu parlais d'un personnage qui s'appelle Pip, ça me donne l'occasion de saluer mon cousin parce que. Je ne sais pas
où c'est. Hi, Pip.
Non, parce que juste, j'en parlais ce matin à Camille, j'ai un cousin qui s'appelle Fion. Et... Quoi ?
C'est son prénom ?
Mais parce qu'en fait, il est à moitié mauricien, à moitié irlandais. Et en fait, Fionn, c'est un prénom irlandais, sauf que ça s'écrit F-I-O-N.
Ah, c'est genre le masculin donc, de Fiona français, ou un truc comme ça ?
Bah, je sais
pas. Ouais, bon. Ouais.
Je sais pas. Et du coup, tout le monde l'appelle Fionn, mais moi, j'ai toujours appelé Fion. Et
la bonne cousine Kalindi.
Merci, Kakala.
Surtout que c'est mon petit cousin, il a genre 6 ans.
Et oh putain,
le pauvre. Et du coup, c'est très drôle parce que ce matin, je racontais ça à Camille justement et je me disais, c'est marrant, tu sais, j'ai un cousin qui s'appelle Fion. Voilà, et comme il s'appelle Pip, je me dis Pip et Fion, c'est pas mal.
T'as la putain, la bonne
bande. Un duo comique. L'aventure de Pip et Fion.
Oh bordel.
Eh bien, écoute, sur cette note, Kalindi, je pense que tu peux enchaîner avec ton gros kiff. À moins que Cédric t'aies un truc à rajouter.
Non, c'était tout bon. Merci.
Il est ravi qu'on finisse son gros kiff là-dessus. J'espère que t'as aimé la conclusion que j'ai faite à ta place.
C'était
de ton
parfait,
histoire.
Ouais, merci, voilà.
Alors moi, le mien, il va être hyper cheesy et surtout assez personnel. En fait, il y a quelques semaines, j'ai écrit un article qui s'appelle « La rencontre la plus romantique de ma vie sur un toit en Inde » pour mademoiselle.com, bien sûr. Et en fait, dans cet article, donc, je décris la rencontre avec une personne qui a partagé ma vie pendant un peu plus de 2 ans. J'ai quitté cette personne pour la personne avec qui je suis actuellement. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, que j'aime toujours très fort et avec qui, malheureusement, je me suis fâchée il y a un an maintenant à peu près. Et j'ai pas vachement réessayé de lui reparler entre temps. Et en fait, à la fin de cet article, j'écris en fait, j'aimerais que un jour Chris tombe sur cet article, le lise et puis qu'éventuellement ça nous permette de renouer contact. Sauf qu'en fait, Chris est allemand, donc très compliqué de tomber sur un article de Mademoiselle. Et en fait, il y a plein de lectrices qui m'ont écrit sur Instagram en fait, tu devrais lui envoyer toi-même et pourquoi pas lui traduire le passage, surtout à la fin où tu dis que t'aimerais que ça se fasse, que vous vous reparliez. Du coup, après avoir réfléchi un petit peu, j'ai traduit toute la fin de mon histoire et je la lui ai envoyée en contextualisant, etc. Surtout qu'il savait même pas ce que je faisais actuellement comme travail, puisque vraiment il m'en veut pour avoir fini notre histoire de manière assez crade. Et donc il l'a lu et depuis on se reparle. Et il était trop
content.
Ouais.
C'est trop mignon.
Ouais. C'est trop chou. Ouais. Et en fait, il était content de se rendre compte que finalement notre histoire avait compté et que j'avais beau y mettre un terme, que en fait c'était quelqu'un que je voulais garder dans ma vie, et il était hyper fier de voir que j'avais même dédié tout un article à cette rencontre là et en fait j'écris à la toute fin que c'est la plus belle rencontre de ma vie, hein, vraiment il y a pas de souci, enfin même mon mec le sait et tout, genre vraiment c'est la rencontre qui m'a le plus marqué dans ma vie en termes de moments extraordinaires. Et il était content de voir que je partageais ce sentiment que lui, il a jamais, enfin, qu'il a toujours gardé aussi.
C'est trop mignon, ouais. Ceci, d'insiste, Shane.
Ouais. Et je suis trop contente et je remercie les lectrices qui ont lu cet article et qui m'ont poussé à le faire parce que je n'aurais même pas pensé moi-même. Donc, grâce à nos super lectrices, je suis réconciliée, enfin, je suis sur la voie de la réconciliation avec une personne qui me tient beaucoup à cœur et qui est vraiment géniale.
Les lectrices, c'est les vrais restats de Mademoiselle.
Oh là là, c'est trop
mignon. C'est vraiment trop mignon.
Oui. Bravo. Donc c'était mon gros kiff.
C'est trop cool.
L'amour et le pardon.
Oh là là.
Oh là là. Un titre de livre, tu sais.
Orgueil et préjugés, amour et pardon. Love and gelato.
Des livres à retrouver, bien sûr, à toutes les bonnes gares, dans toutes les bonnes gares de France.
Surtout si vous avez 15 minutes à attendre votre train.
Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort pour boucler les histoires.
C'est beau. C'est
vraiment...
C'est trop chou.
Merci.
C'est vraiment trop mignon. Ça ouais. me rappelle, on avait fait un truc une fois il y a 2 ans, je pense, sur Mademoiselle, où en partenariat avec un bouquin, c'était un bouquin sur... Enfin, un des thèmes principaux, c'était la rupture et les ex. Et du coup, j'avais fait un article que j'avais proposé à l'éditeur et qu'il avait validé, où le concept, c'était celles qui veulent recontactent un de leurs ex pour leur demander, à ton avis, pourquoi on a rompu, pour avoir la rupture des deux côtés. Et du coup, donc moi, j'avais raconté, à mon avis, pourquoi j'avais rompu avec mon mec d'avant. Voilà, tu choisis l'ex à qui t'as envie de parler. Genre, j'ai un ex qui est un sombre connard, j'avais aucune envie de le recontacter, donc j'ai pas pris lui, et je sais très bien pourquoi on a rompu. Donc voilà, j'avais pas envie d'en parler. Principalement parce qu'il était amoureux de son ex pendant tout le long de notre relation, et maintenant ils sont mariés et ils ont un enfant.
Mais voilà. Non!
Comme quoi, j'avais raison, nique-toi. J'ai recontacté Julien, un autre ex plus sympa. Et du coup, j'ai d'abord écrit de mon point de vue pourquoi on avait rompu. Donc principalement, en fait, on était à distance et on a fini par grandir un peu, c'est pas, enfin, différemment, et on avait plus grand chose à se dire, malheureusement, même si on s'aimait quand même. Et du coup, on s'était pas parlé depuis 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, et je lui ai écrit. Hey. Alors on va faire un article et du coup est-ce que tu veux bien m'expliquer et tout. Bon, on s'était pas quitté en mauvais termes, mais c'était quand même un peu awkward et
ouais, chelou.
Il m'avait écrit tout un truc trop chou sur comment il voyait notre relation et à quel point elle avait été importante pour lui, à quel point il était content qu'on ait pu y mettre un terme sans engueulade, sans violence et tout, et dans le respect et machin. Et j'étais là, oh c'est trop mignon. Et après on avait fini par aller reboire un verre et en fait on a bu 2 verres. Le premier verre, j'étais hyper contente de le revoir. Et le deuxième verre, je me suis rappelé pourquoi on était séparés, qui est que, en fait, on est devenus très différents, et même politiquement et tout. Et en plus, la bière aidant, on s'est chauffé un peu.
Il est macroniste.
Non, c'était juste avant l'élection de Trump. Et du coup, lui, il était un peu genre, ouais, mais imagine si Trump y passe, ce sera quand même un bon coup de pied dans l'establishment. Et j'étais là, ouais, mais en fait, après, il y a des vraies conséquences sur des vrais gens, tu vois. Lui, il avait du mal à. Bref, on s'en fout. Mais du coup, c'était marrant de refaire ce chemin hyper accéléré de « Oh, mais c'est vrai qu'il est trop chou !»« Ah oui, je vais donc y aller !» On s'est c'est pas revu depuis, mais ça a fait un genre de clôture et c'était cool. C'est donc voilà, c'est pas mal des fois de recontacter les gens.
Ah bah oui, clairement, mais surtout qu'en plus, moi, c'est quelqu'un contre qui j'ai absolument aucun grief, qui a probablement été la personne la plus gentille de toute ma vie. Jamais personne n'avait été gentil comme ça avec moi, du moins aucun homme avant lui. Et j'ai compris qu'on pouvait aimer quelqu'un de manière juste normale et sans problème, mais sans hurler toute la journée, qui était un truc que je connaissais vraiment pas. Et pour m'avoir appris toute cette sagesse et cette paix dans le couple, vraiment je m'en serais voulu de pas avoir réussi à garder contact. Mais bon, aujourd'hui il est avec une fille qui me ressemble vraiment beaucoup, mais en vraiment moins bien d'être.
Il y a personne.
Non, mais en fait c'est comme si moi j'avais fait un enfant avec Eddie Mitchell, tu vois, c'est un peu...
Quoi? Non, tu quoi? Pourquoi?
En fait,
cette personne, c'est l'enfant de Eddie Mitchell et toi, c'est physiquement,
ça.
D'accord.
C'est ça, okay. Tu vois. Elle me ressemble aussi un peu à Eddie Mitchell, donc bon. Et...
Il est bel homme, Eddie Mitchell.
Pour un... Bah oui, mais c'est un homme. Et. Excusez-moi.
Putain, t'étais en mode. La paix, la paix.
Ça avait
le
tellement bien commencé, sérieusement.
C'est... Bah oui, mais bon, hein, je reste moi-même. Qu'est-ce que vous voulez?
Putain.
Et voilà, donc du coup, comme j'avais pas de grief et que c'était plutôt lui qui en avait, tout simplement parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre et que je suis tombée folle amoureuse et que ça a pas fait l'ombre d'un doute, c'était le mec avec qui je suis aujourd'hui et personne d'autre. Aujourd'hui, j'espère qu'on va se marier, là j'attends. Si tu m'entends, Naël, merci de me demander un mariage très rapidement. Si ça pouvait être fait au Vietnam, ce serait vraiment parfait. Merci et puis très belle journée. Voilà.
Mais du coup, c'est nul parce que s'il le fait au Vietnam, tu vas te dire que c'est parce que tu lui as demandé.
Alors ne le fais pas au Vietnam. ou si tu le fais, c'est parce que c'est, tu l'as bien voulu. Voilà.
C'est dur de garder la spontanéité en faisant des appels.
Mais non, mais en fait, si tu veux, le gars est déjà tellement couillon de base parce qu'en fait, un jour, il a craqué. Il m'a dit, tu sais comment je te demanderai en mariage ? Et je lui ai dit, bah oui, du coup, parce que vraiment, voilà. Et du coup, il m'a dit comment il me demandera en mariage. Du coup, il est obligé de trouver une autre manière de me demander en mariage parce que celle-là a déjà été niquée. Donc, voilà.
Waouh.
Oh là là.
C'est beau. Et en parlant de trucs mignons. Moi, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a pas très longtemps.
De Casa Nesta ?
Non, mais d'un mec qui travaille avec lui.
On n'est jamais très loin.
D'un mec qui s'appelle Dan Mace, qui bosse avec lui sur les vlogs de 368, donc, dont j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, car je ne parle que de Casa Nesta.
Et de musique.
Et de musique.
Et des petits moments de la vie.
Exactement. Ça me, c'est bien résumé, ma personnalité en trois choses.
On est ravis.
Et du coup, Dan Mace a sorti une vidéo récemment où, qui est intitulée « Qu'est-ce que ça fait de sortir avec un YouTuber ?» Et en fait, lui, il est...
J'adore le titre, c'est tellement clickbait.
C'est totalement clickbait. Et en fait, lui, il sort avec une nana depuis plusieurs années. Il est donc sud-africain. Et donc là, il était à New York pendant 2 mois où il a pas vu sa meuf. Et c'était genre le plus longtemps où ils sont restés à distance. Et donc là, elle l'a rejoint à New York pour quelques temps. Et il en a fait une vidéo. Et donc, il commence à expliquer, en fait, je voulais faire une vidéo genre avec elle parce que je voulais vous la présenter et tout, parce qu'elle est encore jamais apparue sur ma chaîne. Et en même temps, je voulais faire une FAQ, je savais pas trop comment le faire, machin, nan, nan. Et en fait, il a demandé sur Twitter quelles étaient les questions que les gens avaient à poser. Et en fait, il a pris la plus récurrente. Genre, bah, qu'est-ce que ça fait de sortir avec lui? Parce qu'il a l'air ultra investi dans son taf de créateur. Et du coup, genre, comment tu t'en sors, quoi? Sauf qu'il a pas posé la question directement. Il a demandé à la meilleure amie de cette nana-là de lui poser la question via WhatsApp, tu sais, par message vocal. Mmh. Et donc elle lui pose la question et elle lui envoie la réponse de sa meuf, qui est genre la chose la plus mignonne du monde, où genre en fait elle pense qu'elle parle à sa meilleure pote. Du coup, elle dit tous les trucs genre ah bah ça tombe bien que tu me poses la question, j'en ai parlé avec ma mère il y a pas longtemps et tout, et elle est trop chou, genre trop compréhensive avec lui, le fait qu'il veuille se lever à 6h du mat pour aller shooter un truc je sais pas où ou genre un lever de soleil ou un coucher de soleil, enfin bref. Et donc c'est trop adorable et il finit en disant un truc enfin genre vraiment trop important, de dire genre en fait voilà ce que c'est la vraie vie d'une meuf de youtubeur, et c'est pas genre ce que vous voyez dans les vlogs et tout, c'est aussi les questionnements, tout ce qu'il y a derrière, etc. Et bref, cette vidéo est vraiment trop cool et j'étais hyper triste parce qu'elle a été interdite au moins de 18.
Ouais.
Parce que comme c'est une personne qui gère le clickbait et tout ça, donc le titre de la vidéo c'était qu'est-ce que ça fait de sortir avec un youtubeur, et en fait la miniature c'était elle qui est allongée sur le lit pendant que lui il bosse, et donc elle est allongée en culotte et on voit ses fesses, et donc il a été interdit au moins 18.
Mais sérieux, YouTube.
Donc j'espère qu'elle a été depuis réautorisée. Parce qu'en fait, vraiment, le message de fin, il s'adresse aux jeunes et aux jeunes qui sont un peu hyper impressionnés par tout ça, tout l'aspect YouTube star et compagnie. Et en fait, c'est vraiment un message ultra cool et sa meuf est trop mignonne et bref, c'est trop trop chou. Voilà, c'est une très jolie vidéo que je vous mettrai dans les notes du podcast.
Moi, j'irai surtout pour voir ses fesses.
On les aperçoit une demi-seconde.
C'est mais vraiment... quelle belle demi-seconde.
Ah, voilà, magnifique.
Dis-donc que c'est que du positif aujourd'hui. Hein. Ah, oui. Bon, il y a Cédric qui a un peu cassé l'ambiance, mais si t'as dit que la nouvelle meuf de ton ex
ressemblait à Eddie Mitchell.
Et moi,
oh,
mon
toi,
gros kiff,
ton gros amour.
Kiff. Eh bien, mon gros kiff, c'est American Horror Story.
Oui.
Meilleure série.
Putain, mais meuf, c'est ça que j'ai oublié. Vendredi, j'étais fatiguée. Et tu m'as écrit un message pour me dire, c'est quoi ce premier épisode?
Oui.
Je me souviens maintenant.
Voilà. Donc, je cherchais une nouvelle série à regarder avec mon mec, parce qu'on n'est pas d'accord sur les films qu'on veut regarder et tout. Lui, il aime trop les trucs de... Comment, de gens qui tuent des gens, etc.
Divers.
Ouais, de faits divers, tout ça. Et donc, j'en ai marre de regarder ça parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris. Voilà, je sais. Ouais. Et peut-on changer d'univers? Bon, on n'a pas totalement changé d'univers.
Les gens sont toujours fous, du coup.
Les gens tuent toujours des gens, quand même.
Mais donc, du coup, 10 ans...
Du coup, il y a le groupe des meurtriers versus toi, c'est Queer Eye. Ouais, c'est Feel Good et tout, quand même. Tu manques deux salles, deux ambiances.
C'est clair. Et donc, voilà. Donc, j'ai cité trois séries dont vous avez parlé récemment. American Gods, Preacher et American Horror Story, dont on a certainement parlé, je pense, dans l'épisode où on parlait d'horreur, je crois.
Oui.
On cite des séries cheloues.
Ah ouais, ouais. Ok.
Bah, je sais pas. En tout cas, bref, voilà, j'ai repensé à ça. Et du coup, on a regardé les trois teasers et j'étais là, ça a l'air bien American Horror Story. Et il a dit oui, ok. Et on a commencé à regarder. Donc là, on est à la saison 1. Donc pour,
la toute première avec la maison.
Ah ouais, non, mais moi, j'ai jamais regardé American Horror Story de ma vie. En fait, quand je lisais Mademoiselle adolescente, Jack Parker faisait de nombreux articles sur American Horror Story. Et j'étais
sur
là.
Feu le blog horreur.
Jamais de ma life je regarde ça. Ça a l'air de faire très très peur. Et en fait, ça fait pas si peur que ça. Et c'est surtout trop bien. Genre vraiment, moi, je suis là. Qui sont les fucking fantômes de cette maison, bordel de merde?
Ouais, mais tu vas voir, la une, elle est soft.
Et c'est trop bien.
C'est pire après, vraiment. Okay. Après, ça fait peur. Les 2, 4 et 6.
La
2,
direct, l'asile, c'est genre.
Ouais, la 2, tu montes dans un cran du glauque.
On va partir en couille.
Franchement,
ensemble.
Moi, la 2, elle m'a mise mal de ouf parce qu'elle est malsaine, mais l'enfer, quoi.
Okay.
Mais du coup, aussi, t'as fini la 1 ?
Non, pas encore. Là, je suis à l'épisode 8, je pense. J'ai passé Halloween. C'est très bien. Mais en fait, je suis contente parce que pour une fois, dans une série, je comprends à peu près ce qui se passe. Tu sais, genre, les séries un peu compliquées où t'es censé savoir qui est qui et machin. Et en fait, des fois, ils te donnent des indices et moi, je les ai jamais. Et ben là, je les ai. Et
Columbo,
je suis là, genre,
Scooby-Doo.
Ah, ok, c'est bon.
Mais quel bolos !
Putain, j'en peux plus. Ah, Scooby-Doo, c'est chaud, tu vois. Genre, j'ai du mal.
Jamais rien.
Qui est-ce qui se cache sous ce masque ? Je ne sais pas.
Mais voilà, et donc du coup j'ai commencé American Horror Story et c'est trop bien. Et le blond qui joue Tate, c'est Evan Peters, un
oui.
truc dans le genre.
Ouais, on adore.
Et ouais, tout, en fait, oui. je sais d'avance que c'est un acteur de fou parce qu'en fait j'ai lu vaguement des trucs sur American Horror Story au cours des 8
et
ans.
Il est dans plein de saisons.
En fait, il est dans toutes les saisons.
Ouais.
Okay. C'est un des seuls qui est dans toutes les saisons. Et en fait, il faut préciser qu'American Horror Story, c'est une série donc d'anthologie. Donc en fait, chaque saison a sa propre histoire.
Ouais.
Et en fait, elle a pour particularité qu'elle garde à chaque fois quasiment le même casting, mais que chacun des personnages joue donc des rôles complètement différents. Ce qui souligne les capacités d'acting de ces acteurs, et notamment Evan Peters, qui à chaque saison, en fait, au début, dans la première, il a pas un rôle si important que ça, et vraiment ça va ça monte en flèche. Genre vraiment la dernière saison, tout repose sur lui tout le temps. En fait, il joue plusieurs psychopathes qui ont marqué l'histoire des États-Unis voilà. Donc,
Déjà, je trouve que là il joue très bien et c'est un de mes personnages préférés de la saison parce qu'il est quand même assez complexe à comprendre. Et voilà, donc du coup, je kiffe American Horror Story et j'ai hâte de regarder la suite. Et voilà, j'ai hâte de rentrer chez moi ce soir pour regarder.
Donc tu vas regarder toute seule ?
Je sais pas, je vais voir avec Brice ce qu'il en est. On va faire un accord tacite de est-ce qu'on regarde la série ou pas.
Toi qui es un peu flippé, franchement, la 2, je te conseille pas de la regarder toute seule.
Fais
elle est vraiment ardoise. Hein.
Fais l'impasse sur la 2 et passe à la 3 avec les sorcières.
Non, la 3, regarde pas, elle est nulle.
Moi, j'avais bien aimé les sorcières.
C'est vraiment nul à yèche. D'ailleurs, la prochaine saison d'American Horror Story, ce sera un crossover entre la première saison et la troisième saison. Donc, pour tous les gens qui sont hyper nostalgiques, justement, des premières saisons d'American Horror Story, parce que pour beaucoup, c'est les meilleures, eh ben, sachez que vous allez retrouver vos personnages préférés. Et donc, peut-être même la présence de Jessica Lange, qui était disparue du casting depuis déjà 3 ou 4 saisons.
Ouais. Oh, putain, donc, dommage, parce qu'elle est trop bien.
Elle est ouf.
Elle est ouf.
Elle est là sur les 5 premières.
Ça m'emmerde cette histoire parce que j'ai commencé à regarder American Horror Story à l'époque de la saison 1. Effectivement, ça fait pas trop peur.
Ouais.
Mais j'avais regardé un truc genre 2 ou 3 épisodes et j'étais là. Ce qui est pas. Elle est pas longue en plus la saison. Elle a pas énormément d'épisodes.
C'est 13, je crois.
Ouais, et du coup, j'étais relativement bien avancée et en fait, ça m'a saoulée parce que je comprenais rien. Enfin, je sais pas si je suis con ou quoi, mais j'étais là. C'est complexe, tout le monde parle de face. En fait, ça me saoule les séries où personne ne parle comme les gens parlent dans la vie.
Mais
c'est mon gros problème que j'avais eu, par exemple, avec The Leftovers, où en fait, dès qu'ils doivent avoir une discussion qui potentiellement pourrait révéler des éléments de l'intrigue, bah, ils vont pas le faire et ils vont parler en mode « Tu te souviens, le tableau, ma femme ?»
Ah non, attends. Parce que The Leftovers, je suis d'accord avec toi, mais American Horror Story, pour moi, c'est limpide, quoi.
C'est le souvenir que j'en ai. Après, ça date, tu vois. C'était à l'époque où c'était diffusé, donc peut-être que j'étais... plus bête qu'aujourd'hui, c'est très possible. Et aussi, ça faisait un peu flipper, mais franchement, ça allait en tout cas le début. Et du coup, j'avais arrêté, et après, je m'étais tâtée à regarder la saison avec les sorcières, mais bon, j'y étais jamais venue. l'asile, c'était mort de base. J'ai regardé le poster, j'ai fait ok, j'ai peur du poster. Donc...
oui, c'est et clair.
Coup, et c'est marrant parce que j'ai dit sur Instagram, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait un live en disant que j'avais commencé à regarder American Horror Story. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui l'avaient vu parce que je voulais avoir des réponses. Alors que bon, les réponses arrivent dans la série, donc peut-être
bah oui,
juste attends. Mais moi, je m'en fous de me faire spoiler, tu vois. Je me dis ah ok, j'ai raison là-dessus, très bien. Alors du coup, je vais voir comment c'est amené dans la série. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit j'ai regardé toutes les saisons sauf celle avec les clowns. Et je suis là. J'ai trop pensé à toi.
Alors en vrai, du coup, je l'ai vu parce qu'il y a donc une saison dans un freak show, un carnaval itinérant, je sais pas quoi, et donc avec des clowns méchants. Et j'ai vu des photos et tout du clown principal méchant, et il me fait pas trop peur parce que je trouve qu'il ressemble pas trop à un clown. Après, je l'ai pas vu bouger ou rire ou quoi, tu vois, mais en photo, en tout cas, j'étais là.
Ah, bon. C'est vraiment le pire clown, et genre, il est vraiment mille fois pire que celui
c'est
de ça, par exemple.
C'est le même acteur que Devil's Reject, en plus, non?
C'est exactement, ouais, exactement. Ouais.
Ah, c'est le clown le plus flippant du monde, ouais.
De
Zob Rombie. C'est le fameux réalisateur porno qu'on connaît très bien.
C'est Rob Zombie, on est d'accord, hein?
C'est Rob Zombie, ouais. C'est son deuxième.
Mais oui, en effet. Et en fait, le clown Twisty, je crois qu'il s'appelle dans la saison 4 d'American Horror Story, qui pour moi est la meilleure après la saison 2.
Ah ouais.
Est hyper flippant. Et en fait, t'as des scènes où genre t'as juste des jeunes allongés sur une petite nappe en Vichy en train de se rouler des gros palos. Et là, d'un coup, t'as un clown qui arrive, mais genre, il leur court dessus, mais full frontal avec sa gueule, il est comme ça, et tout, c'est horrible. Il est horrible. Ah non, mais Mimi, je te jure, je te montre un
jeu. C'est pour ça que je dis ça m'emmerde, parce qu'en fait, vous me re-hypez, et je sais que la saison 1, je pense pouvoir la faire. La 3, franchement, j'ai pas trop peur des sorcières et tout, donc ça devrait aller. Mais en fait, je peux pas regarder 80% de cette série, quoi. J'ai eu peur à fucking Rusty Lake, un jeu mobile d'escape room. Je peux pas regarder American Horror Story.
En vrai, il y a que la 2 et la 4 qui sont des saisons flippantes, mais
celle des vents. Ouais, oui, ouais, c'est clair. Les vampires, ça passe.
Après, moi, franchement, les dernières, à part la dernière qui a été vachement, enfin, qui était hyper clivante et qui a vachement divisé en ça.
C'est celle qui a été annoncée en genre sur l'Amérique de Trump.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Et en fait, je pense que les gens ont été déçus parce que ça se passe pas que pendant l'Amérique, enfin. Ça se passe pas que sous Trump, et en fait, t'as des épisodes entiers de flashbacks avec des gourous de secte. En fait, c'est vraiment sur tous les malades mentaux qui ont eu une influence à un moment donné sur des populations aux États-Unis. Et je pense que les gens ont été hyper déçus. Moi, j'ai trouvé que, franchement, c'était la meilleure depuis très longtemps, puisqu'elle avait pour elle le mérite d'être... d'être déjà hyper moderne, hyper actuelle, de coller à l'actualité. Et en fait, j'ai trouvé ça couillu qu'une série s'attaque à la politique de Trump, même si c'était un peu t'as plein d'éléments fictifs fictionnels, je ne sais pas, bon bref, mais du coup cette dernière saison était vraiment excellente, alors que celle d'avant avec Lady Gaga, dès que Lady Gaga est arrivée au casting, les saisons sont complètement effondrées, ça a été une catastrophe. Et pourtant c'est dommage, il y a une saison qui partait très bien, c'est Hostel, je crois que c'est la 7,
c'est des vampires, ouais, la 7.
Et en fait, après, vraiment ça commence très très bien, parce que t'as que des, en fait ils ont fait un hôtel, ça se passe entièrement dans un hôtel, et l'hôtel, on dirait l'hôtel de Shining de Kubrick, et vraiment ça commence comme plein de clins d'œil à tous les chefs-d'œuvre du cinéma horrifique, et ça s'enfonce dans une espèce de mélasse de c'est parti dans tous les sens avec beaucoup trop de conneries à mon avis, c'était vraiment dommage. Mais du coup, en fait, là, juste pour revenir à ça, la 2 et la 4, franchement ça, elles font extrêmement peur, mais n'hésitez pas à les regarder parce qu'elles sont hyper bien construite.
Hésiter.
Et intelligente à mort, quoi. Enfin, Mimi, la 4, laisse tomber, mais la 2, franchement.
Non, mais les asiles, je peux pas non plus.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est marrant sur cette série, c'est qu'elle part à chaque fois sur un trope, enfin, un type de délire de film d'horreur, et qu'elle le creuse, et qu'elle creuse, et qu'elle creuse. Alors, sur l'asile, effectivement, ils t'ont tout mis en même temps. Je pense que le délire, c'est genre, comment on peut faire le truc le plus malsain possible. Ouais. Ce qui est assez couillu pour une saison 2 après. C'est-à-dire là, tu sors d'un truc de maison hantée, après tu pars. Alors si on foutait tout en même temps, genre tous les trucs qui font bien bader du cul, genre tu vas en rêver pendant des mois.
Yes, super.
Ce sera notre saison 2.
Mais ça va beaucoup plaire à ton mec Louise, parce qu'il y a une histoire de psychopathe complètement fou. En plus de toutes les autres histoires.
Tu voulais t'échapper des histoires de gens qui tuent des gens, mais tu as
non,
échoué.
Mais oui, c'est juste que j'en ai marre de regarder des reportages, voilà.
T'en as marre de faire ton premier accusé, quoi.
Ouais, voilà, ça. Okay. Et donc voilà, je voulais une série un peu stylée. Et en fait, je savais que, enfin, vraiment sur les choix des trois séries, de toute manière, j'avais choisi des séries avec des gens qui tuent des gens.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais voilà, donc je voulais juste vous tenir au courant que je m'initie à l'horreur.
C'est trop bien.
Doucement.
Et à HS, c'est vraiment une belle série, quoi.
Bien dans le club.
Eh bien voilà, écoutez, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, j'allais dire d'American Horror Story, mais n'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer, on a un flux dédié maintenant si vous voulez pas suivre tous les podcasts de Mademoiselle, mais juste Laisse-moi kiffer, vous pouvez, voilà, juste vous abonner à Laisse-moi kiffer. Aussi, on a un compte Instagram, Laisse-moi kiffer, donc c'est facile, vous avez qu'à taper ça. Et je tanne Kalindi depuis deux semaines pour qu'elle m'envoie une photo de son beau de chambre.
Surtout donc, que j'étais encore chez ma mère samedi, putain.
Donc n'hésitez pas à envoyer des MP à Kalindi pour lui demander une photo de son pot de chambre que je mettrai sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer.
Ça va être qualitatif.
Ça m'a intriguée. Je voudrais juste vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode le 1er août et on sera de retour après car tout le monde est en congé pile à ce moment-là.
Ah. Tout le monde.
Oui, et bah, c'est-à-dire que vraiment Mimi, Kalindi et moi sommes en congé sauf Cédric. Donc Cédric, si tu veux faire un Laisse-moi kiffer tout seul, n'hésite pas. Mais
Ah, j'avoue.
En vrai, tu dis ça.
Ah là là. Fab, il va écouter, il va rentrer de vacances spécifiquement pour ça. Ils vont faire un Laisse-moi kiffer tous les deux et ça va c'est être pris Cali, je pense.
Eh bien, mais non, il y a Monsieur Chaussette avec nous là.
Oh non, encore... non. Je me suis dit, il va le dire. Vraiment, j'y pense. Oh non, Cédric.
Voilà, donc prochain Laisse-moi kiffer, ça sera le 15 août. Je sais, c'est long. D'ici la prochaine fois,
touchez-vous bien le kiki.
Putain, je savais pas qu'il y avait un
T'es
début.
T'es chiante, Mimi, putain.
J'aime les running guys.
Tu sais que moi, parfois, j'appelle l'ascenseur avec mon nez.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.